bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 27 février 2016 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 22e volet de l'Entrepode.
Tu viens de quel pays?
22 émissions. Pourquoi 22 émissions?
Je le demande.
Bah parce que les gens ils nous écoutent. Pourquoi les gens ils nous écoutent? Bah parce qu'ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Bah parce qu'ils sont heureux. Pourquoi ils sont heureux? Bah parce qu'ils rient. Pourquoi ils rient? Bah parce qu'ils nous écoutent sur le transistor. Alors aujourd'hui autour de la table on va commencer par une prière. Esprit de l'Entrepode, es-tu là? Si tu la tapes trois fois ou sinon décris les gens autour de la table. Bon il est pas là. On va décrire les gens autour de la table. Alors dans l'Entrepode, on est là pour faire rire, surtout lui, le roi de la rigolade, du calembour, la joie de vivre à l'état pur, toujours prêt à sortir une connerie, puis surtout à se tripoter, j'ai nommé Christophe.
Surtout tripoter, oui, surtout tripoter.
Puis on prend n'importe qui, il n'y a pas de jambes au rabais, même celle qu'on la voit d'Annie Cordy mélangée à du Jackie Sardou qui serait passé sous un rouleau compresseur. Ça fait mal, mais c'est comme ça, et quand je pense qu'elle voulait que je parle de son corps de rêve, mais je préfère ta voix, j'ai nommé Didouille. Puis aussi, nous, il n'y a pas de discrimination. On prend les gens rejetés, tous ceux, les gueules cassées, les physiques ingrats. Parce que nous, on est une famille. Même toi, t'as ta place ici, l'Elephant Man. J'ai nommé Freddy. Et puis on prend les grands, les petits, surtout les petits. D'ailleurs, t'es où? T'es là? C'est que t'es, si t'es pas là, t'es tout petit, on ne te voit pas. Mais... C'est Arnaud, ça, j'ai nommé Arnaud. Ah, par contre, il y a des filous. Des gens qui sont prêts à tout pour les mettre les autres au chômage. À peine Freddy l'a loupé une émission qui s'est jetée sur le quiz.
Salaud, hein.
C'est pas bien ça. Faut y laisser à Freddy. Déjà qu'il a une tronche en biais. Il prend ça. Bon, j'ai nommé Lulu. Bon, puis là, dans un film que je citerai pas, il y a Mamie Suze qui boit de la Suze. Et nous aussi, on a notre alcoolique. Mais je peux pas y en vouloir parce que je bois quasiment autant qu'elle. Puis je vois l'autre en face aussi qui dit, l'autre cuve à vin, qui dit, mais moi aussi je bois, mais dis-nous, t'as déjà été présent, on peut pas tout faire sur toi, laisse la place aux autres. J'ai nommé Starlette. Bon, puis il veut plus que je finisse par lui. J'ai carrément perdu l'accent, le con.
C'était top.
L'accent entier.
Il veut plus que je finisse par lui. Du coup, dorénavant, plus que d'habitude, je finirai par lui parce que c'est quand même le directeur de l'Entrepode. C'est celui qui nous tripote avec amour. Alors allez, vas-y mon grand, fais-nous rêver. Je te redonne l'antenne. Vas-y mon Nico. À t'es.
Ouais, bravo.
Esprit, tu es de plus en plus brillant, Marius.
Ah, Marius, c'était parfait.
Bon, ben Nico, bon courage, enchaîne.
Quel verbe.
Après un bon vin chaud.
Quel verbe.
En même temps, il y avait du gras à boudre.
Ah là, dis donc.
Il y avait de quoi faire en ce moment. J'ai vu les deux à la filée, les deux, j'aime bien.
Qui a compris la phrase?
T'as regardé une série jeudi soir sur Arte, toi?
Oh oui, j'en parle après.
Bah écoute, bravo Marius, hein. Franchement c'était quelque chose d'assez impressionnant. Ah, et puis oui, quelque chose d'aussi impressionnant, c'est que pour la première fois, on est tous autour de la table.
Eh oui. Ouh,
c'est la première fois que nous sommes tous les 8.
Ouais, donc, c'était ma présentation qui était.
Si,
bah, oui. C'est vrai, c'est la première fois.
Ouais. On est tous ensemble, oui.
Mais non.
À chaque fois, il y en a
un.
Depuis qu'Arnaud a officiellement rejoint le.
Die Fright.
Donc pour cet Entrepode, on n'est qu'entre nous, qu'avec nos rubriques. Pas d'invité, donc on en avait eu un assez costaud déjà la dernière fois. Hein, donc,
ah, pas de place, ça, surtout.
Il
n'y
a plus de place, de toute façon, ou sur les genoux de Marius.
Il comble. Hein.
Comment?
Je dis il comble. L'ancien invité, il comble. Et il...
Ah, d'accord.
Non, je sais pas si c'était meilleur, c'est mieux. Quand... c'est mieux quand c'est écrit, en fait.
Je crois que t'as tout donné au début, en fait.
Mais
je sais pas, je lui passe le 10, au fil rouge.
Donc, on va se retrouver avec nos rubriques. Chacun a plus ou moins quelque chose de préparé. On aura le quiz de Freddy. Freddy, as-tu un quiz cette fois-ci?
Alors, non seulement j'ai un quiz, mais j'ai un super cadeau.
Oh!
Attention!
Oh,
le dico flingueur des tontons.
Oh! Wow.
Des barbouilles.
Tu te l'es offert, j'imagine, déjà.
Bah oui. Donc le quiz de Freddy, et puis enfin on terminera habituellement avec nos 60 secondes chrono. Donc pour commencer cet Entrepode, on va commencer avec nos rubriques, et puis je vais commencer mon voisin de gauche.
Il a quoi ton voisin de gauche?
Il a un casque sur la tête.
Un casque, des lunettes et une casquette.
C'est bien la seule chose qu'il a sur la tête.
Et donc, bah, Christophe, avec ta rubrique, tu nous as préparé quelque chose.
Je voulais juste revenir sur petit événement qui a eu hier soir, suite au dernier Entrepode. Catherine Fraud a eu au César hier soir, a eu le prix d'interprétation féminine pour Marguerite.
Et j'ai pensé à toi.
Ouais, ouais. Bravo.
Et oui, j'ai pensé à toi quand quand j'ai appris ça. D'abord, j'ai pleuré.
Ouais, moi aussi.
Et puisqu'on parle César, Mustang a eu 4 Césars.
Tout à fait.
Suzanne Marot.
Voilà. Et ben ça, j'en parlais à ma femme ce matin dans le lit.
Et Vincent Lindon aussi pour La Loi du marché.
On n'a pas reçu Vincent Lindon par contre.
Non,
pas encore.
Non, mais ça va venir, ça va venir.
Et c'est ça. Y me trajo un examen que se editó que se atreza. Es esa, YouTube se ha portado.
Alors, je vais vous parler.
Ça, c'est pas très français, par contre.
Quelle entrée en matière.
Dis donc, t'as pris du cours avec Marius ou quoi?
Il l'a écrit, en plus. Ouais.
Je l'ai écrit, j'ai même mis un trait d'union entre re et parler.
Ah, bah.
Je sais pas si j'ai fait une faute.
Je sais pas, on demandera un prof de français.
Non, je vais vous parler, une fois de plus, d'un auteur ou d'une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Donatarte. J'en avais parlé très très vaguement lors d'un épisode du mois de décembre, je crois.
Pas vaguement.
Plus que vaguement.
Non, oui,
et là, je vais vous parler de son premier roman, Le Maître des Illusions. Roman paru en 93. Et donc, ce roman, au vu du titre, on pourrait se dire que c'est un espèce de faux thriller où s'entremêle la passion. De quoi?
Bah oui, il pose la question en vrai.
Dis-le, oui.
Je voulais. C'est quoi le titre? Parce que tu dis au vu du titre, mais on n'a pas
le maître des illusions.
Ah. L'année, le maître des illusions.
Le maître des illusions de 1993. Donc ce roman, en fait, se présente comme un faux thriller où s'entremêlent la manipulation, la passion intellectuelle et littéraire et la folie meurtrière. Donc très rapidement, je vous donne le pitch. Hein, si je me suis pas fait chier, c'est ce qui est écrit au dos de la couverture.
Ah, okay, t'es pas fait chier
en fait.
Mais, non, je l'ai pas lu en fait.
Si je ne tire rien. Quel escroc.
Non, mais c'est un excellent roman. Donc, le pitch. Fuyant sa Californie.
Quatrième de couverture.
Fuyant sa Californie natale, bourse en poche, Richard entre dans une université du Vermont. Immédiatement intrigué par un groupe de 5 étudiants formant un espèce de petit clan à part à l'élégance surannée presque princière. Des petits bourges, quoi. Il va mettre tout en œuvre pour approcher ces gens qu'il considère comme inaccessibles. Il y parviendra en rejoignant notamment leur classe de grec ancien, menée par un charismatique professeur despotique et érudit, Julianne Moreau. Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos avec deux mots d'ordre, discipline et secret. Mais très vite, Richard devine sous les vernis des apparences une tâche indélébile.
Ça pue du cul, ça.
Tu vois que t'écris bien quand tu veux.
Ça pue du cul.
En fait, donc, j'ai adoré ce roman parce que...
Tu nous avais déjà un peu parlé du pitch.
Oui, le Chardonneret.
Oui,
c'est... Où il avait parlé du Chardonneret.
Ah, mais c'est ça.
C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, mais alors, tu vois, tu n'as pas écouté mon entrée en matière parce que je vais vous parler une seconde fois.
C'est ça qu'il a dit, je vais vous reparler.
Oui.
Parce que j'avais évoqué très, très rapidement, en fait...
Mais tu nous as pas situé le Chardonneret.
Je l'ai fait. Vous avez même souligné le reparler, qui n'était pas français.
Ah ça, on s'en rappelle.
Et puis on a ricané quand tu as dit tarte aussi. Voilà.
Comme la première fois d'ailleurs. Ouais.
C'est marrant, mais.
Ça me revient. Donc, tout coup, ça y est.
Marrant, c'est marrant, mais je suis désolé, je ne maîtrise pas le nom des écrivains intéressants.
Bah, voilà,
elle s'appelle Tarte, c'est pas pour ça que ses romans le sont.
Vous aviez dit que son prénom c'était Pella, non?
Oui. Oh. Non, c'est Don. Don à Tarte.
Non.
Bon, enchaîne, j'adore. Je pense qu'il faut enchaîner là. Ouais, là. J'adore, c'est génial.
Non,
c'est bon, franchement, c'est ça vole super bien.
Non, c'est génial.
Alors, c'est quoi Donatarte?
Christophe, vas-y, t'inquiète, là tu... c'est pas facile. Là.
Non, c'est pas facile du tout. J'ai un peu chaud là, subitement.
Il a mis sur ses lunettes, lui.
Arnaud, il en transpire des lunettes.
C'est rigole, Arnaud, il a de la mis sur les carreaux.
Je sais pas comment il fait pour transpirer des lunettes. Il doit y avoir.
Ça marche pas sur Freddy.
Oh, en fait, c'est un radiateur, ce mec-là.
Il doit y avoir une évapotranspiration au niveau des paupières.
C'est un arbre.
C'est ça, ouais.
Je s'appelle Groot.
Allez, enchaîne.
Donc, J'ai adoré l'atmosphère qui se dégage de ce Rosemont et surtout la richesse des descriptions des personnages. Ils sont tout à la fois égoïstes, manipulateurs, amis, ennemis, sympathiques, féroces, vaniteux et courtois.
Ah, des putes, quoi.
Ça se lit.
Ces adolescents atypiques, décalés, esthètes, élitistes, arrogants et émouvants à la fois, sont à la recherche d'absolu, d'extase, loin de tout matérialisme ou de toute morale.
Ça veut dire qu'il y a des conneries qui se passent.
Mais ce qui intrigue davantage que l'enquête policière qui est assez classique, qui s'en suivra, ce sont les manipulations psychologiques et le mystère de leur personnalité complexe de chacun d'eux, qui va s'éclaircir évidemment au fil des pages. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Donna...
Tarte
aux pommes.
Je ne dirais pas. a le don de nous manipuler, elle nous manœuvre en fait. Elle sait aussi bien alterner les climats étouffants et angoissants et les climats de bonheur et de plénitude absolue. Elle nous fait nous questionner aussi concernant tous ces personnages. Et elle pose de façon indirecte en fait la question de sa, pas de savoir, mais de. Elle se demande si. Si Richard est le regard de la société sur ce groupe d'étudiants ou si c'est simplement le mec qui est normal et qui est capable de juger la folie des autres. Voilà, la valeur de ce roman tient surtout à une atmosphère envoûtante, à une lecture très fluide, très expressive, portée par des images riches qui suscitent notre imaginaire. Évidemment, on est dans le Vermont, comment dirais-je, paysage de forêt, etc. Et son écriture, donc je disais fluide, lyrique et parfois un peu philosophique, est vraiment, je trouve pas l'adjectif.
Magnifique. Et alors du coup, tu l'as dévoré assez vite, le dernier tarte. Alors,
et je l'ai.
Il était au poil.
Il est pas trop long, c'est digeste ou
c'est un très gros roman, oui, il fait encore 1000 pages.
C'est sa marque de fabrique pour le coup.
Ouais, il faut savoir que cette écrivaine a écrit que 3 romans. Mais qu'à chaque fois que ces 3 romans ont fait des cartons internationaux, à chaque fois traduits dans plus de 20 langues. Et donc, en gros, elle met 10 ans à écrire un roman.
Et entre Chardonneret et Le Maître des Illusions, du coup, il y en a un pour lequel ton cœur balance plus ?
Non, parce que ce sont 2 univers complètement différents, avec des histoires complètement différentes. Je ne peux pas comparer. Ce sont vraiment 2 choses différentes.
Dans le trait de caractère, le psychologique au niveau des.
Là, on est dans la
ribambelle d'adolescent dont tu.
Oui, on est dans la manipulation psychologique. Dans le descriptif de caractère des personnages, effectivement.
Moi, ça, c'est le genre de roman que j'aime bien, moi. Ouais.
Parce que finalement, l'enquête policière, elle est vraiment en second degré. On s'en fout carrément.
C'est pas le problème.
On s'en fout. Mais plus vers... on fouille vraiment les personnages.
Et donc tu dis que c'était son premier roman, celui-là.
Celui-ci, c'est son premier roman qui est paru en 93, je disais donc.
D'accord.
Et par exemple, je serais ravi qu'un scénariste ou qu'un producteur s'empare d'un livre comme ça et ça pourrait faire un film magnifique, quoi. Plutôt que de nous faire chier avec des remakes à la con.
C'est pas Freddy qui va te contredire.
Alors là, je suis bien d'accord avec
Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des écrivains qui ont une vraie matière. Et pourquoi on n'essaie pas d'aller puiser dans ces sources-là ?
Mais fais-le.
C'est dommage que j'ai envie de
le Moi, je me lance dès demain, j'écris un scénario.
Eh ben voilà. Toi, dès demain, tout de suite, la procrastination.
Dès demain. T'as raison, Lido, je quitte l'entrepôt dès maintenant. Non, voilà, donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille. Et après, peut-être passer au Chardonneret. Du coup, moi, j'ai acheté son deuxième livre, Le Petit Copain, d'accord, qui est a priori le moins bon des 3.
Bon,
donc, je vous dirai ça à la prochaine entrepode.
All right.
Cool. Non, je vais essayer de changer parce que.
Pour pas y aller plus loin. Non, c'est intéressant.
T'as une ligne conductrice,
J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup cet écrivain. C'est vraiment passionnant, quoi. Mais je suis en train d'en lire un autre, je vous avais déjà parlé, c'est Leonardo Padura, un auteur cubain. Et là, c'est pareil,
c'est formidable.
C'est hallucinant.
Vous en avez parlé aussi,
oui,
déjà.
J'avais parlé de L'homme qui aimait les chiens.
C'était un des premiers entrepreneurs.
C'est le premier roman que j'ai lu de cet auteur. Et là, j'arrête pas d'en dévorer.
C'est vachement bien.
Merci à Monsieur Rêve qui me fournit des Leonardo Padura à pas cher, en fait.
Ah oui, bien.
Il connaît
ta passion.
Mon intérêt pour cet auteur, et donc il essaye de...
Il connaît tes goûts, monsieur connaît tes goûts.
Monsieur connaît mes goûts et il essaye de m'en dénicher à droite à gauche.
Bonjour, vous ne sauriez pas du Padura, comment il s'appelle ?
Leonardo Padura.
Vous ne sauriez pas du Padura, si c'est derrière, c'est dans le, sous le derrière le rideau là-bas.
Du Padura ? Mais avec des images.
J'en veux du Padura, j'étais en fou.
Vendez des tartes.
La tarte au concombre.
Mais bon, bon hein.
Bah écoute, bon. L'homme qui aime les chiens, c'est aussi le titre d'un film produit par Richard Allen, ça.
C'était pas l'homme qui aimait les chiennes.
Non, les chiens.
Allez, on retombe dans le graveleux, j'adore.
Ouais. Et moi aussi, j'adore.
Ah bah,
moi,
tu peux me faire confiance.
Vive la littérature.
Eh bien, écoute, merci Christophe.
Mais de rien.
C'était vraiment sympa. Enfin, ça donne envie de les lire, tes bouquins. Mais 1000 pages, c'est ouais. Ça qui refroidit quand même. Mais bon,
on déconne, mais Linda Lovelace, elle a fini avec des chiens. Mais
tout à fait.
C'est ce qu'il expliquait.
Tu nous as dit, t'étais pas là ou quoi?
Mais je vous emmerde.
Ouais, moi, je me souviens, j'ai demandé où est-ce qu'on pouvait avoir
les... Ceci dit, le Kikobook est
sorti. Ça y est?
Oui, bah oui, t'as pas vu sur Facebook.
Mais elle dit quoi?
Le Kikobook est sorti.
Ah oui, j'ai vu les photos.
D'accord.
J'ai vu les photos des soirées.
Oui.
Ludo, tiens.
Ah, moi, dis, ça va vite au jeu.
On traîne pas.
De toute façon, là, l'épisode va durer 30 minutes.
Et maintenant, la parlette de Proust. Hello and welcome. Hit the record button. Il t'a plu le film?
C'est mon tour.
Eh ben oui, c'est ton
bon,
tour.
Bon, eh ben allons-y, Eddie. Alors voilà, eh ben, après les films un peu olé olé de la dernière émission. Oui,
la musique ou pas?
Oh oui, tu peux la balancer maintenant, vas-y. En fond léger pour pas que ça pète la tête des gens. Donc je disais, après les films olé olé de la dernière émission, on va passer à un autre genre pour cette émission. Le message pédagogique à la Baramine. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film ici ou pas encore.
Non.
De quoi parles-tu?
Je veux pas. J'y arrive. Je veux parler de Requiem for a Dream, qui est un film qui est. Qui
reconnaît le Chronos Quartet.
Exactement. Il va me plomber l'émission. Oui, exactement.
Il est chiant, lui, en fait. Hein.
Qui est en fait Requiem for a Dream, qui est un film sorti en 2001, en mars 2001, un film de Darren Aronofsky. Le réalisateur, entre autres choses, de Noé, The Fountain et Black Swan, notamment. Et qui filme avec Jared Leto, avec Jennifer Connelly, Ellen Burstyn et Marlon Wayans. Adaptation d'un roman de Hubert Selby Jr., c'est un roman qui est sorti en 1978. Et ce roman raconte le parcours, je dirais plutôt la descente aux enfers, de quatre personnages, du fait de leur dépendance respective. Alors en fait, ce film, alors je vais vous faire le pitch en... rapidement, très brièvement, en quelques mots.
Quatrième de couverture. Il a un cahier de 100 pages, on a l'impression voilà. Que toutes les pages sont griffonnées.
Ce film raconte deux histoires en parallèle. Oui, messieurs, dames.
La chronique est plus longue que le film.
Non pas une histoire, mais bien deux histoires en parallèle. Alors, la première histoire, Sarah Goldfarb, une vieille dame, une veuve, qui est vieille femme, solitaire, qui ne voit plus son fils, ou si peu, et dont la seule distraction, c'est de regarder la télé, cette brave dame. Alors, elle regarde la télé toute la journée, et puis son rêve à cette dame-là, ce serait de passer à la télévision. Et puis un beau jour, elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit « Madame, vous allez passer à la télé ». Alors cette dame, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit « Je suis un peu en surpoids, je vais faire un régime ». Et elle décide de faire un régime, sauf que pour entrer dans la robe rouge qu'elle avait quand elle était plus jeune, quand son mari était encore vivant. Et sauf que bah, le régime, c'est une chose et c'est difficile. Donc elle va aller voir un médecin sur les conseils d'une voisine, médecin qui va lui conseiller des cachets. Donc en fait, des cachets qui sont en réalité des enfaites et des sédatifs, et pour accélérer la perte de poids. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire implique le fils de cette femme, avec sa petite copine, qui est jouée par Jennifer Connelly, et un de ses amis, joué par Marlon Wayans. Alors, eux sont déjà accros à l'héroïne, et ils ont des rêves plein la tête. Elle est issue d'une famille un peu bourgeoise, manifestement, une famille un peu possessive. Tout ce qu'elle rêve, c'est de s'échapper de ce milieu-là, de pouvoir... quand se lancer dans la confection, réussir dans la confection, avoir sa propre boutique, son propre truc. Lui, il rêve d'avoir son business et le copain veut échapper à sa condition de noir. Quand je dis de noir dans un galop.
Tu l'as pas dit, mais c'est Jared Leto hein, qui joue.
Et Jared Leto, je l'ai dit effectivement tout à l'heure. Oui, en fait, t'as raison. Rappelons-le que c'est bien Jared Leto, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Jared Leto qui joue effectivement le rôle du fils.
Et Elizabeth Burstyn, la mère.
Et Ellen Burstyn, la mère. Et donc, ils mettent au point donc, un plan au point pour pouvoir acheter de la drogue, la revendre, donc une drogue qui est de très bonne qualité, pouvoir la revendre au double pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir échapper à leurs conditions. C'est le plan de départ, sauf que, et vivre une vie meilleure, sauf que bah, le problème c'est que leur dépendance à la drogue va tout faire partir en vrille. Donc voilà en gros le point de départ, je ne vais pas en dire plus, simplement qu'évidemment le contraste. Alors le film est divisé en trois chapitres, l'été, l'automne, l'hiver. Et chacun de ces tableaux, de ces chapitres, est une étape dans une descente aux enfers, mais qui est absolument terrifiante. Qui est à la mesure de la spirale infernale que vont vivre les personnages. Alors ça c'est grosso modo c'est le fond. Je vais pas en dire plus parce qu'évidemment derrière il s'agit pas d'aller spoiler pour les gens qui connaîtraient pas le film.
C'est un must.
Sur la forme, ça c'est le fond. Sur la forme, parce que c'est la forme est aussi importante que le fond, parce qu'en fait elle vient vraiment carrément sublimer le fond. C'est que sur la mise en scène qui est absolument incroyable, le montage, Darren Aronofsky dans une interview parlait de hip-hop montage, c'est-à-dire que toutes les scènes, notamment les scènes de shoot, sont filmées de façon extrêmement cut, avec le sound designer, il explique que le sound designer qui travaille avec lui a mis plusieurs mois pour trouver les sons qu'il souhaitait, et il collait les sons aux images de façon très cut, et on arrive à une espèce de morceau, quasiment de morceau de musique, qui est rythmé par les sons, les sonorités, les bruitages et les images où on voit se succéder en cadence la prise au moment où les personnes se shootent, s'injectent.
Est-ce que c'est pas l'effet qu'on a quand on prend l'héros? Est-ce qu'il a pas essayé de retranscrire
oui,
ça?
Enfin, je sais oui, pas, j'en ai oui, pas. Oui, Christophe. Ouais, tout à fait. En fait, non, mais Christ, c'est vraiment l'idée qu'il recherche, c'est de montrer à quel moment la réalité et comment les personnages basculent de la réalité à leur monde, au monde artificiel, comment est-ce qu'il est, en fait, leur perception de la réalité, comment elle change, en fait. Et c'est vraiment, il a réussi à illustrer ce qui était illustré au départ par des mots, puisque c'était, comme je vous dis, c'est un roman de Hubert Sebi Jr. à la base. Lui, là, son objectif, son projet, c'était d'arriver à retranscrire visuellement ce que l'auteur avait réussi à mettre par les mots. Il y a également, donc, comme je vous disais, donc, cet énorme travail sur le son, et donc, cet énorme travail sur le son, par ailleurs, qui accentue magistralement le choc des images. Et je rajoute à ça la musique de Clint Mansell qu'on a entendue, qui est jouée par le Kronos Quartet, comme disait Arnaud tout à l'heure. Cette musique-là, en fait, qu'on a déjà entendue sur plusieurs films, sur la pub, etc. Dans le film, elle est utilisée de façon magistrale, puisqu'en fait, le film n'est qu'un seul et même crescendo. En fait, le film commence avec la musique, au départ, et plus le film va avancer, plus on va descendre aux enfers, plus la musique va monter en intensité. Et en plus elle ajoute à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, elle s'intensifie donc au fur et à mesure du parcours des personnages. Après toutes les, y a pas que ça, il y a aussi les techniques, je vais pas rentrer dans le détail, mais les éclairages, il y a notamment une scène assez incroyable, un plan séquence de la vieille femme de Sarah Goldfarb qui prend pour la première fois des amphètes, et il y a une espèce de plan séquence qui dure à peu près 25 secondes dans l'appartement, et on assiste lors de ce plan séquence à c'est une journée qui se passe 25 secondes, mais en un plan séquence. En fait, ils ont utilisé une technique particulière, et on voit le jour décliner, la lumière décliner au fur et à mesure qu'elle fait sa journée. Et c'est un plan, mais saisissant, hein, même terrifiant, en fait, quand on voit la façon dont cette vieille femme est prise. Donc voilà. Donc comme je vous disais, toutes ces techniques, il a utilisé pas mal de techniques qui existaient déjà, d'autres des nouvelles qu'il a créées. Et alors, il y a un reproche qui aurait pu lui être fait, c'est de dire, oui, bon, tout ça, super. En fait, c'est votre truc, c'est un gros film MTV, quoi. C'est un clip géant, et voilà. Et Darren Aronofsky, dans une interview qui est indiquée dans les bonus du DVD, il dit on ne peut pas me faire plus grande insulte que de me dire que mon film est un clip MTV, parce qu'il dit les techniques que j'ai utilisées, un clip musique, enfin en gros il disait le clip MTV, etc., le montage très cut, etc., c'est des images, c'est du son, il n'y a pas de fond forcément, tout ce que j'ai utilisé comme technique c'est uniquement au service du narratif, voilà. Je n'ai utilisé ça que justement pour doper mon histoire, pour doper le fond. Oui. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, grosso modo, mais pour moi, c'est me faites pas cette injure-là, s'il vous plaît, quoi. En fait, donc voilà, ce qu'il voulait en dire. Lui, il dit, moi, tout ça, ça ne sert qu'à renforcer l'impact. Allez. Et c'est des bonbons. Et la violence du propos. Bref, tout ça pour vous dire, c'est que conclure par le fait que on pourrait se dire qu'est-ce qu'on attend comme film. Alors c'est pas un film réaliste au sens, quand je dis réaliste, c'est au sens du quotidien filmé, je dirais façon documentaire. On est plus proche, compte tenu de la mise en scène, de la façon dont les personnages sont mis en scène, plus presque d'une fable qui est même très poétique en réalité, avec des images d'une poésie absolue. Hein. Il y a des images d'une sensualité au début du film que je trouve vraiment fantastique. Alors, peut-être parce que je suis Jennifer Connelly est une.
Faut le dire, une bombe. Que tu...
Ah bah, Jennifer Connelly.
Une ex.
Une...
On a un copain qui j'en ai autant. J'en pense autant avec Jared Leto.
Voilà, hein. mais en même temps, tu as raison. Jennifer Connelly, moi, c'est une de mes actrices préférées, mais Jared Leto, effectivement, et Jennifer Connelly forment un couple à l'écran qui est extrêmement touchant. Parce qu'on voit tout l'amour qu'ils ont et tous les espoirs qu'ils nourrissent pour leur avenir. Et,
très très bons acteurs.
Et il y a des scènes d'une sensualité incroyable, vraiment, vraiment, qui sont magnifiques. Et c'est d'autant plus terrible que l'on voit. Et on voit aussi le rôle de la mère, la mère qui est très touchante, parce qu'elle est seule, cette pauvre femme qui est seule, qui essaie de trouver un but à sa vie. Et tous ces personnages qui, en fait, ont des illusions, ont des rêves, des espoirs. Et derrière, ça va, comme je vous disais, se fracasser avec la réalité. Et donc, j'en termine. Je vous disais, c'est une fable poétique. C'est ces espoirs qui, en même temps, vont les détruire peu à peu. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure, ce que je vous disais peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais finalement, est-ce que, encore une fois, Darren Aronofsky expliquait, c'est pas un film sur la drogue. Contrairement à ce qu'on pourrait penser comme ça, c'est vraiment un film sur la dépendance. Lui disait, mon projet c'était de faire un film sur la dépendance, c'est-à-dire la dépendance, ça peut, et d'ailleurs on le voit à plusieurs reprises dans différentes choses, et c'est toute forme de dépendance, et il explique à quel point on peut être happé par n'importe quelle forme de dépendance. Ouais. Et la dépendance, ça peut être la dépendance à la cam, à l'héro, à la drogue, aux enfêtes, au café, à la télé. Toutes sortes de choses, et notamment au bonheur et à l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, il explique à un moment comment on peut être dépendant à ce genre de choses-là et comment derrière les choix que l'on fait peuvent nous amener.
Pour une fuite en avant.
Une fuite en avant. Mais les choix que l'on fait, le problème, et c'est là qu'on voit à quel point le mécanisme il est fait, c'est que malheureusement, on a une réalité, on a un contexte, une condition qui font que, à un moment, les rêves, les espoirs peuvent se briser face à cette, je dirais quelque part, à une forme de destin. On voit cet inexorable presque quasiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire, juste pour vous dire que Ellen Burstyn, qui donc joue le rôle de la vieille dame, a été nominée aux Oscars en 2001. Bon, elle l'a pas décroché parce que c'est comment elle s'appelle, Erin Brockovich, aidez-moi.
Julia Roberts,
qui effectivement avait remporté
Point pour moi.
Voilà. avait remporté l'Oscar. Et alors, on pourrait même quasiment qualifier, je le dis, hein, ce film presque de film d'horreur. Hein.
Oui, mais voilà. J'ai jamais vu ce film. Tu m'as donné vraiment envie.
Ah, faut le voir.
Ouais, mais là, tu vois, je retourne le truc et je vois éprouvante expérience physique, totalement déconseillée aux âmes sensibles. Je suis une âme hypersensible.
Je le dis tout de suite.
Mais il est déjà réservé. Moi, je
c'est un film qui ne laisse pas du tout.
Ça te retourne.
Je te le dis.
C'est un
point pour Marius.
C'est d'une violence morale qui ça te chahute dans tous les sens. Mais par contre, c'est absolument à voir. Moi, je trouve ce film magnifique.
Alors, les enfants ont voulu le voir. Mes enfants, pour les
auditeurs, nos ados,
parce que 16 et 15 ans. Non, mais pour les gens qui nous écoutent, je vais pas. Mais voilà. Et donc, c'était l'occasion aussi de revoir ce film avec eux. J'ai prévenu.
Mon fils de 8 ans est assez partagé.
On en a reparlé parce que le film les a bien remués. Hein. Mais j'avais prévenu.
Dans le sens de questionnement. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des questionnements après projection et il y a encore des questionnements.
Voilà, c'est un film coup de poing.
J'ai vraiment envie, mais alors j'ai très peur.
Moi, c'est une de mes plus grosses. Alors, une de mes plus grosses claques au cinéma. Avec 20 dernières minutes.
C'est clair.
20 dernières minutes hypnotiques en fait. Ouais. Tu parlais du montage, les 20 dernières minutes, j'ai pas en tête d'équivalent au cinéma en termes de même d'impression physique.
J'ai fait le parallèle la première fois que je l'ai vu, mais avec là je l'ai revu les 20 dernières minutes une dernière fois. La première fois j'ai eu la même sensation que quand j'avais vu Orange Mécanique. Quand on lui oblige à regarder ces images comme c'était comme dans Orange Mécanique, tu sais, on voit des actions comme ça et le côté très rapide, passer de l'un à l'autre et tout, ça m'a dérangé, mais dans le sens
Ça t'a bousculé.
Ça, voilà. Et ça m'avait fait ça pour Orange Mécanique.
Ouais. Sauf que là, il y a vraiment. C'est 20 minutes. Ah ouais. Je crois que c'est 20 à 25 minutes, mais ça va. Crescendo, c'est.
Oui, c'est complètement, oui. Mais c'est une expérience physique, sensorielle même. Enfin, je veux dire, et émotionnelle. Très, 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 très forte.
Moi, je suis chamboulée complètement.
Bah, tu m'as convaincu. Je veux bien emprunter le DVD.
Si tu l'as déjà pris, t'as demandé à personne.
Et Starlet, il me l'avait déjà demandé.
Starlet, je ne peux que le conseiller. Maintenant, je
clairement. Oui, ça va te bousculer.
Mais clairement, je sais que ça va te bousculer.
On ressort pas indemne.
On ne regardera pas des films, je connais.
Mais
Jared Leto est un excellent acteur.
Ils sont mais tous écoute, après voilà, il faut peut-être tenter le coup, voir et puis.
Mais non, mais ça, avec sa gueule d'angelot, ses yeux magnifiques et mais
tu parles de moi comme ça.
En fait, ils sont tellement bons que tu reçois pleinement l'émotion en pleine face quoi. Ouais, et la gérer, c'est pas évident. Voilà.
Ouais, tu lui vends bien là.
Non mais c'est oui.
Bah, non, mais... Tu peux pas non, dire non, autre chose, sinon ce serait lui mentir.
Ah non, mais moi je pense que.
Moi je veux dire, c'est intéressant parce que. Bah, je sais pas, faut. Moi en tout cas, les enfants c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi une.
Est-ce que ça fait plus pleurer que Bambi? Alors on n'est pas du tout sur le même mode d'émotion. Comment te dire?
Je pense que la télé, quand le générique de fin déboule.
Tu es content qu'il arrive quoi.
Tu restes complètement tu te restes comme si tu prenais une baffe et faut digérer le truc quoi.
D'accord.
C'est impressionnant, c'est émotionnellement très fort.
Néanmoins pour nos ados, ça a aussi permis de du coup, il y a une approche sur les addictions qui leur ont permis de se
c'est intéressant.
Et donc finalement
de mémoire,
oui.
Et un film qui est relativement court en fait.
Ouais,
il fait une heure et demie en fait. On est.
Ah, t'as le temps quand même de rentrer dans le truc
formats,
et tout ça en une heure et demie.
C'est
mais il n'en faut pas plus.
Intéressant, finalement.
Ah oui. C'est pile poil ce qu'il fallait.
Oui. Le film,
c'est pas délayé. Enfin,
non, pas du tout.
Très
parce que t'as traité de beaucoup de sujets, mais finalement c'est assez condensé, voilà. Donc on comprend que ça doit être assez.
Mais qui alterne en même temps. Tu as des plages. Tu as des plages. Pas contemplatives, ce serait pas le terme. Mais tu as des
plages d'apaisement.
Des plages d'apaisement.
Bah c'est ces fameuses plages poétiques aussi qui font que.
D'ailleurs, je crois qu'on voit des plages de mémoire aussi, des bords.
Coney Island, ouais, notamment, puisqu'en fait, ça se passe à Brooklyn. Et en fait, tu as ce décor qui est utilisé, qui revient en permanence. Alors, il y a aussi autre chose dans le film, c'est qu'il utilise beaucoup la notion de répétition. Il est beaucoup de notions de montage parallèle, de répétition, je vais faire gaffe à ce que je veux dire pour pas spoiler, mais, et notamment, en tout cas, par exemple, Coney Island, qui est donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas Coney Island, c'est à New York. C'est un endroit.
L'autre, il connaît.
Mais oui, désolé, j'ai un peu de culture, désolé. Je m'excuse. Mais tu sais, j'ai pas de mérite, je suis né comme ça. Donc,
Tu as été?
Coney Island, à New York, oui. C'est New York. Enfin bref, ça c'est ma vie privée, je veux dire, enfin, New York, Maracas. Bref, dans Coney Island,
Maracas, c'est une ville.
À Coney Island, il y avait d'ailleurs maintenant, parce qu'ils l'ont tiré, en fait, il y avait tout un parc d'attractions, en fait.
Comme un pire, c'est comme à Brighton.
C'est exactement ça.
Ouais, mais moi je connais Brighton et je t'emmerde.
Non, tu connais Brighton.
C'est sympa votre vie à vous deux, hein, franchement. On vous emmerde ou quoi?
Et donc ce décor est utilisé de façon récurrente, et notamment, ça fait partie de ces plages quasiment de refuge dans le rêve où on retrouve les personnages. Non, vraiment grand film qui a d'ailleurs lancé très fort la carrière d'Aaron Aronofsky.
C'était son premier grand film.
Deuxième.
Ou il avait peut-être déjà dit, pardon.
Non, j'avais dit. Alors, Aaron Aronofsky a réalisé Pi. C'était son premier film.
Fountain, par la suite.
Exactement, c'est son troisième film. Black Swan, et puis il a réalisé Noé,
sorti l'année dernière,
que j'ai pas vu.
Non plus.
Mais voilà. Donc,
Très bonne critique était... parce que c'est
sur Noé.
Non, ah ouais, bonne critique de Ludo, je trouve, parce que c'est vraiment tu résumes bien le film, c'est-à-dire la forme au profit du fond.
Tu veux dire qu'entre vous
Non, mais je trouve que ça.
Je suis d'accord.
Sans avoir spoilé.
Je suis d'accord. J'ai très bien
compris. Excellent travail du film.
Merci Arnaud. Heureusement qu'il est là lui alors.
Ok, voilà, non, mais c'est vrai que ça donne envie de le regarder.
Regardez-le.
Non, mais
moi, il faut tenter.
Moi, c'est un film que j'ai dans mon ordinateur depuis un petit moment et que voilà même titre que d'autres, tu te dis alors, la liste des priorités, c'est un jour, oui, machin.
Bah, remets-le en tête de tes priorités.
Je vais vous dire, il y a des films qu'on regarde comme ça à la chaîne, mais qui, on en bouffe. Et puis il y a des films qui restent.
Un temps d'arrêt, quoi.
Et ça fait partie de ces films qui, même faut réfléchir, qui sont nourrissants, entre guillemets, si je peux.
Je me souviens du jour où je l'ai vu au ciné, de ce que j'ai fait après. Enfin, vraiment, c'est.
Moi, je me souviens de l'impression de. Je veux pas dire.
Je mangeais un kebab.
Si je dis le terme.
Ouais, il m'a resté un peu sur l'estomac.
Si je dis le terme, elle va pas aimer Starlet, mais je me souviens du sentiment de nausée que j'ai eu en fait à la fin du film.
Moi, je fais alors.
Pas dégueuler, mais non, de la nausée, c'est pas de la nausée, c'est de.
Ouais, c'est du. Ouais,
mal à l'aise, quoi.
Je me souviens pas, Arnaud, j'avais pas encore l'âge d'aller au cinéma.
Voilà.
Il n'a que 15 ans, en fait.
Oui, il n'a que 15 ans. Avis aux amateurs, et franchement, tentez l'expérience.
Ok, ouais, je vous le recommande. Aussi, moi, ouais.
Oui, vraiment.
On va parler d'un autre sujet, peut-être plus léger.
J'espère pas avoir plombé l'ambiance.
Non, mais Freddy, toi, tu avais un sujet plutôt musical, si la je quiz. Ne me trompe la pas.
Un sujet musical, puisque c'est aussi le mathématique.
D'accord.
Enfin, ma thématique.
Ah.
Oh là là.
Non mais comment ? Mais vous ne me reconnaissez pas ? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion.
Et ben après ça, croyez-moi, on sent mieux.
C'est donc la tronche en biais que je vais vous dire ma chronique. Alors, plus
on nous avait vendu un monstre de foire, finalement.
Ouais. Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment.
Carrément.
Moi, je vois bien.
Même avec la tronche en biais, il est plus beau que moi.
Je pensais voir double face arriver. Finalement,
on est dit quoi. Déçu.
Il faut que tu expliques.
Il fait n'importe quoi pour s'en intéresser.
Oui, il faut que j'explique. En fait, j'ai souffert d'une petite paralysie faciale pendant quelques semaines.
Ça nous a fait vacances.
Et ça va mieux, donc d'où la déception de mes acolytes. Alors aujourd'hui, une chronique, plutôt une belle histoire que je vais vous raconter, celle de Rachel Riss. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien.
Si, nous en avait parlé, la jeune fille qui s'était fait voler ses partitions.
Ah oui, c'est elle. C'est
t'arrêtes pas de jouer avec.
Accessoirement, c'est celle qui fait un peu de musique et que j'ai vu en concert chez Monsieur Rêve.
Exactement. Voilà,
ça aussi, on le savait.
Alors, je vous raconte la suite de l'histoire. Alors, peut-être un petit rappel d'abord. Tout commence en 2014 et tout commence par un mail, celui que j'envoie à Rachel, donc une artiste américaine qui sort alors son album Ghost of a Gardener. Un mail, un peu une bouteille à l'océan, dans l'océan Atlantique, donc. Et un mail qui prend la forme d'une invitation à jouer à Rouen à l'époque. Je vois sur son site internet que la dame joue à Dublin. Je lui dis. Dans mon anglais basique, pourquoi ne pas pousser jusqu'à Rouen ? C'est pas loin de Paris. En général, c'est l'argument imparable, s'il en est, pour les artistes du moins. Rachel Riss est donc venue jouer en novembre 2014 aux Trois Pièces, une première fois. Une révélation, une belle rencontre aussi. Et pour elle, un coup de foudre en rentrant aux États-Unis d'Amérique. Elle nous fait une demande, pas un mariage non, mais la possibilité de venir à Rouen en résidence. C'est-à-dire qu'elle nous demande si on peut lui trouver un lieu, un peu de matos. Voilà, donc ni une ni deux, on réfléchit. On trouve une adhérente à l'association Europe&Co, qui est une bienfaitrice, une bienveillante aussi, et qui accueille Rachel dans un petit studio qu'elle a chez elle, et lui met à disposition une cave tout équipée, avec instruments de musique à disposition, et tout le matériel qu'il faut. Vous qui êtes musicien, vous savez ce qu'est une résidence. Hein. Là, elle avait vraiment tout ce qu'il fallait à disposition. Et l'inspiration qui pointe son nez à l'ombre de la cathédrale, qu'elle admirait tous les jours et auprès de laquelle elle avait trouvé l'inspiration. Pardon. Le résultat, c'est un disque qui sort ce 4 mars. Là, on est en plein, peut-être même que l'épisode paraîtra ce jour-là, selon le travail de Nico. Son nom, Cardinal... Et entre parenthèses, The Rouen EP.
Wow, la classe!
Ouais, un bel hommage, un super bel hommage.
Il parle de nous, quoi!
Bah ouais, c'est ça. Un coup de projecteur
le
sur
le plus fort, ça aurait été Cardinal Freddy EP.
Freddy Pomeroy.
Je crois que le prochain s'appellera comme ça.
Ah, tu dois avoir une forme de mémoire, Freddy.
En tout cas, un bel hommage et un coup de projecteur sur la ville à travers le monde pour celle qui rayonne à l'international. Là, pour vous donner une idée, elle part ces jours-ci des États-Unis. Elle va jouer, elle va faire 17 dates en Angleterre, elle va jouer en Suisse. J'ai eu la chance, enfin l'honneur de lui trouver des dates en France, donc elle jouera à Rennes, à Nantes, à Rouen, au Havre et à Paris, dans la foulée. Et puis elle continuera sa tournée chez elle, aux États-Unis. Elle nous réserve la primeur de cette tournée.
Eh ben.
Voilà, donc évidemment elle passera, donc je vous ai dit les pays, mais ce sera Londres, Brighton, Glasgow, Edinburgh, Zurich, Rennes, Paris et Rouen évidemment, ce sera le 8 avril au Théâtre de l'Almendra. Je vous propose d'écouter un titre et on en recause après, si vous voulez bien qu'on passe une chanson entière, sinon on passe un extrait.
On a peut-être pas que ça à foutre.
J'ai les gosses à aller chercher à 5h moins 10.
Alors, c'est bien gentil, mais bon.
Est-ce que juste avant. C'est un extrait de son de l'EP qui va sortir.
Alors non, parce que les morceaux sont pas encore dispo.
Voilà.
Celui-ci s'appelle, le morceau s'appelle Better Wife.
Tu as dit qu'il s'appelait comment ce morceau?
Better Wife.
C'est ce que cherche Ludo.
Elle vous confie, c'est exactement ça.
Elle a une jolie voix.
Oui, très jolie voix.
Très agréable.
Et alors, en fait, pour sa tournée, elle sera toute seule ou accompagnée de musiciens?
Si tu veux, on peut arrêter le morceau et puis on peut.
Elle a un peu la voix de Annick.
Annick Cordy.
Annick Cordy.
Annick Cordy.
De Gathering.
Annick Cordy.
C'est vrai, c'est pas faux. Annick Van de machin de oui, Gathering.
Annick Van Ginsbergen.
Van Ginsbergen.
Annick, moi je dis.
Annick.
Voilà.
Oui, ma question c'était la tournée là qu'elle va donc démarrer dans toute l'Europe, enfin une partie de l'Europe. Elle l'a fait seule ou avec des musiciens?
Alors elle l'a fait avec des musiciens en Angleterre, des musiciens locaux. Je crois qu'elle l'a fait seule en Suisse et en France elle l'a fait avec une artiste rouanaise qu'elle avait rencontrée lors de sa résidence, qui s'appelle Ariane et qui joue dans le groupe rouennais Qu'en pense Gertrude, qui assurera d'ailleurs la première partie
que tu joues bien, fais venir bientôt.
Qui assurera la première partie.
D'accord.
De Rachel à Rouen. Et donc, elle jouera de la contrebasse, elle fera les voix additionnelles.
D'accord.
Et Rachel, elle-même, joue de la guitare et du piano.
D'où ma deuxième question, en fait. Est-ce que tu sais comment ça se monte une tournée comme ça pour un artiste qui habite donc, aux États-Unis? Enfin, je suppose qu'aller aux États-Unis, enfin, aller en France, plutôt aller en Europe, c'est un coup. Comment ça se monte? Parce que bon, toi, évidemment, vous avez eu un contact privilégié, enfin,
ouais.
Mais pour le reste, tu sais comment
ça se monte? Elle fonctionne beaucoup comme ça.
D'accord.
Elle est très DIY dans l'esprit.
Ouais.
Et elle a plein de contacts en Angleterre, des gens sur qui elle s'appuie pour trouver des dates, par exemple. Et puis son réseau s'agrandit petit à petit comme
d'accord.
ça. La même chose en France, où elle s'appuie sur nous, mais sans nous mettre la pression.
Sûr, oui,
mais je lui ai proposé de lui trouver quelques dates, parce que j'ai aussi mon petit réseau, et là, ça a fonctionné sur 5 dates. Et la même chose en Suisse, elle a des amis là-bas qui lui trouvent des dates, et ainsi de suite. Effectivement, alors... Et bah oui, il faut bien au moins rembourser le billet de
voilà,
l'avion.
Voilà, c'est ça, déjà,
exemple.
Déjà. Et puis, tu sais, elle est. Alors moi, je la connaissais pas jusqu'à ce que tu me la fasses découvrir.
Elle était complètement inconnue.
Voilà.
Avant,
donc, du coup, après, comment amorcer? Toi, tu comment est-ce que c'est elle d'elle-même qui a réussi à amorcer la chose en Europe? Ou c'est vraiment des gens comme toi qui, en Angleterre, en Suisse, en France, l'ont contacté?
La première fois, elle est seulement venue en Irlande, par exemple.
En quoi?
En Irlande.
Oui, d'accord.
Et puis en Angleterre, et puis moi je l'avais contactée. Alors c'était rigolo parce qu'en échangeant avec elle sur place ici, elle me dit mais je serais vraiment curieuse de savoir comment tu m'as découvert.
Et c'était la question que j'ai posée.
Et moi je lui ai dit sur internet, et sur le coup j'ai pas osé lui dire j'ai téléchargé illégalement ton album sur tel site.
Ah c'est bon ça.
Mais je lui ai dit en juin dernier quand elle est venue, elle m'a dit mais c'est formidable.
Et quand tu sais c'est...
Ça
comme quoi ça a du bon des fois.
Ça pourrait faire l'objet d'un autre
débat. C'est un autre débat ça encore.
Et, qu'est-ce qui fait qu'elle est tombée amoureuse de Rouen, puisque apparemment elle tourne partout en Europe.
Il avait pas sa paralysie à l'époque. Il bavait pas encore, hein.
Ou plutôt si, il était paralysé, mais c'était son priapisme.
Non, parce que je veux dire, Rouen, c'est pas une ville exceptionnelle.
Je vois que
les gens, pour un ami américain.
Mais non, c'est super exotique.
T'as déjà vu des belles maisons comme ça, d'accord, bellement, des États-Unis? Moi, non.
Elle va en Suisse.
Littéralement, de ma chaise.
On parlait tous en même temps.
Elle va en Suisse, elle va en Angleterre.
Ouais, c'est nul.
Enfin, je veux dire, il y a aussi des paradis intéressants là-bas.
Mais comment t'as pas la cause médiévale?
Je vais donner un autre exemple, une autre anecdote. On a
reçu
un grand monsieur avec notre asso qui s'appelle Joseph Van Wissem.
Ah
oui. Palme d'or à Cannes de meilleure musique de film, je le rappelle.
Je me souviens.
Et bien, figure-toi qu'il est tombé en extase devant la ville, devant ses décors, devant son architecture, son histoire, ses vieilles pierres.
Ce qui ne se rend pas du tout, en fait.
Et il a, c'est peut-être un scoop que je vais vous donner, il a pour projet de venir tourner à Rouen.
Un film ?
Ah oui, si, tu nous l'avais dit.
C'est Michael.
Un film ?
Ah oui, c'est Michael, d'accord. Ouais.
Avec Jim Jarmusch ou...
Non, lui en tant que réalisateur, c'est ça ?
Lui en tant que réalisateur ?
Je peux pas en dire plus.
Ah non, encore, bah non.
En tout cas,
bon, d'accord.
En tout cas, il va revenir faire des repérages.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, il était revenu jouer une deuxième fois au cours de sa tournée. On l'avait reçu deux fois, ce qui est assez rare. Je crois que c'était la première fois que ça nous arrivait. Parce qu'il était tombé sous le charme de cette ville, quoi.
D'accord.
Et détrompe-toi, la ville, elle scie les pattes de tous les artistes.
C'est étonnant.
Et notamment les Américains qui, chez eux, n'ont pas de bâtiments qui ont plus de 100 ans.
Le fait d'y habiter, en fait, on ne voit pas du tout les choses de la même façon, ce qui est normal. Tu as parlé d'une tournée à Rennes, à Paris. C'est aussi des villes qui ont l'air assez attractives.
Oui, mais c'est des villes dont on a déjà vu des images à la télé, sur Internet. Rouen, les artistes ne connaissent pas, ils ne savent pas le placer sur la carte.
On est trop près de Paris, en fait.
Et c'est du coup la surprise totale quand ils arrivent ici.
D'accord. Et dernière question, il n'y a pas un seul titre qui fit de son prochain OP, donc Rouen ?
Si, il y en a un sur son Bandcamp.
D'accord. Au moins un titre, quoi.
Oui.
Et tu sais, le titre cardinal de l'album, ça fait référence à quoi, non ?
À la cathédrale, cardinal.
Au pédophile de Rouen.
D'accord. Voilà.
Tu rigoles un peu comme Mickey, toi, en fait.
C'est parce que le chat le chatouille.
Le chat le chatouille.
Je suis en train de me gratter la chatte. Bah, bravo.
Vas-y.
En tout cas, merci de cette découverte. C'est vrai qu'on en a
parlé. En plus, c'est une voix très agréable.
Tu nous en avais parlé, malheureusement, pour un fait divers.
Notamment, le morceau qu'on a vu, c'est un live. Et je vous invite à regarder le clip qui donne vraiment une
Better
idée.
Wife.
Christophe l'avait vu à la guitare.
Moi, je l'ai vu en showcase petit comité chez Monsieur Rêve.
Elle avait mal à la gorge.
Toute seule à la guitare.
Tu as donné la date à l'Almandra ?
C'est le 8, vendredi 8 avril. Voilà. Les infos sur europenco.com. Mmh.
Elle t'a dédié une chanson, peut-être, dans son album.
Oh, ce serait
ou c'est toi le cardinal.
Ça, c'est quand il met ça toute sa soutane. Ça nous regarde pas.
La chanson qui s'appelle Big Size.
Le Freddy on the Beach.
Super Size Me. Bon, super alors. En tout cas, plus d'infos donc bientôt sur aussi notre newsletter. On en reparlera tout à l'heure.
Freddy
nous mettra des petites infos là-dessus. Starlet, je te propose de prendre la suite.
Oui.
Je te bien, suis
d'accord. Vite parce que je cherchais les gamins après.
On va aller chercher les gamins là.
Justement,
moi, ça va être rapide, donc ça tombe très bien.
Et donc, Starlet, si je remets.
Attends, tu sais pas, attends, il y a des questions qui arrivent derrière.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai rien.
Ça peut durer.
Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais assez.
Ouais, l'épisode spécial Kenki ou celui-là, non ?
Je sais pas de quand il date. Ouais.
Oh, le 4 était bourré aussi.
Ah oui, tu devais bien être arraché quand même. Là, sur celui-là, oui, je pense. Sur celui-là.
Ouais, mais il y a une réverbe et un délai qui fait que ton rire est répété
merci,
à l'infini.
Merci Christophe. À l'infini.
Et au-delà.
Eh bien, vas-y, justement.
Alors, moi, c'est un peu un test de rachot que je vais vous présenter aujourd'hui.
Alors, ça, c'est une expression de Rouen. Hein,
donc alors, faut que t'explique. Rachot, c'est un peu près de ses sous. Parce qu'en fait.
C'est le masculin de Rachel.
On a des.
Marié avec pingrin.
Je crois que c'était le pluriel de Rachel.
Je t'ai dit, ça va durer.
Voilà. C'est une petite astuce, en fait, pour changer de déco pour un peu moins cher que d'ordinaire. Si vous avez des fauteuils en tissu qui sont un peu vieillissants, un peu abîmés, un peu tachés. Voilà, ça peut arriver.
Comme la bonnette de micro, par exemple.
Par exemple. En fait, voilà, j'ai eu le cas d'un fauteuil qui était abîmé, un petit peu vieillot, avec une couleur, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Il est derrière Marius.
Oh, quelle horreur.
Oh oui, quelle horreur.
C'est pas beau.
Oh, la gueule, c'est les salés.
Et donc je me suis dit, putain, un fauteuil ça coûte quand même un peu cher, je vais essayer de trouver une astuce pour le customiser à moindre coût.
Customiser.
Donc j'ai regardé sur internet, parce qu'internet est ton ami, donc j'ai tapé refaire un fauteuil pas cher, et j'ai vu une nana qui avait repeint son fauteuil avec de la peinture.
À tissu.
Non,
même pas à tissu. Hein,
et voilà. Même pas. Non. Parce que j'ai vu effectivement.
C'est qui tissu ?
J'ai vu des.
Oh non !
Secours !
J'ai vu effectivement des bombes de peinture à tissu qui coûtent. Pour le coup, ça coûtait deux fois le prix du fauteuil. Et puis en plus, t'es pas vraiment. Enfin, les bombes, je suis assez prudente sur l'utilisation de ce genre de.
Laissez-moi tranquille !
Oh là là. Donc, pour vous expliquer, ils sont en train de prendre la tête à Didouille. Ils sont à deux en train d'essayer de la prendre en photo parce qu'aujourd'hui, elle s'est pas maquillée.
Elle aimerait bien qu'on lui repeigne la face. Voilà.
Tu ne vas pas si bien dire.
Elle pensait être tranquille avec Freddy, sa gueule de travers, mais c'est revenu.
Il te reste pas un petit peu de peinture Ripolin, ton fauteuil ?
Donc voilà, j'ai regardé les diverses astuces présentes sur le web, et donc voilà, les bombes de peinture à tissu, ça coûtait trop cher, et puis j'ai vu une nana qui a testé de peindre son tissu avec, de peindre son fauteuil avec une peinture acrylique.
Tout à fait basique, de toute façon,
c'est indélébile sur du tissu, ça bouge plus après l'acrylique. Hein.
Et tu préfères pas la peinture à crépi, enfin un truc qui soit plus.
Non, acrylique c'est mieux.
Ah, d'accord.
Et c'est qui, acrylique?
Alors, la peinture acrylique, il faut la choisir.
J'avais dit
même
que ça durerait.
Plutôt mat, parce que sinon ça fait vite kitschouille, genre. Les pantalons qui font maintenant enduit, machin, mais sur un fauteuil, ça fait bizarre, je pense. Voilà. Donc, j'ai pris mat et ça brille quand même un petit peu déjà.
Mais là, c'est fait ou pas?
Alors, regarde l'autre, c'est le gris.
Ah ouais.
Le gris, c'est la peinture.
Je regardais l'espèce de merde. Parce que c'est
ouais, le rendu est très sympa. Ah, voilà.
C'est vachement bien.
Donc, alors,
et
le
ça, c'est de la peinture.
C'est de la peinture que l'on peut utiliser pour les murs, en fait.
C'est quand tu t'assois. Oui, non, c'est
pas riche. Mais le fait de.
Oui, mais ça devient pas dur.
Il est un peu moins souple.
Non, Prums.
Il est un peu moins souple que l'autre.
Alors effectivement, il perd un peu de souplesse. Oui, voilà. Il est beaucoup moins souple, bien entendu, parce qu'il y a, comme, j'ai mis deux couches. Il faut mettre deux couches parce qu'après la première, on voit quand même les traces. Ah oui. Sur le coussin, tu peux regarder, Freddy, j'ai fait qu'une couche, par exemple.
Moi aussi, je préfère mettre deux couches, sinon après,
ça fuit.
Après, tu laisses des traces, c'est ça.
Non, c'est gidouille. C'est juste que ton fauteuil, en fait, il est rembourré, il y a de la mousse. Dès lors que tu mets de la peinture, donc c'est humide.
Oui.
Donc, au niveau du séchage, clairement, sur ta mousse, elle s'est rétractée un petit peu.
Alors, justement, je ne sais pas qui a mis son manteau dessus, mais ce n'est pas sec.
Je ne suis pas sûre que ça ait atteint la mousse. Et en plus, ça a dû sécher très vite, parce que je l'ai fait en plein été, dehors. Vraiment, ça a séché à vitesse grand V. Ça s'est surtout durci parce que quand tu fais de la peinture sur un châssis classique,
bien sûr.
Mais ça s'assouplit à force de s'asseoir dessus.
Mais donc ça veut dire que tu peux faire des trucs super vintage avec plein de couleurs, des trucs de
vintage.
Ouf, quoi.
Vintage. Alors,
vintage, si vous voulez.
Vintage. L'Aston Martin vintage, d'accord, mais vintage.
Il y a Arnaud qui vient de se faire un piercing sur le téton par Lucha.
En tout cas, ça lui a plu, regardez, il est tout content.
Je crois qu'il a eu chaud quand même.
Oh, il a l'avait sur les lunettes.
S'il pouvait peut-être prendre un petit verre d'eau quand même, parce que.
S'il pouvait parler, il aurait dit d'arrêter.
Tu vois, on les invente pas tes samples, hein. On les entend dans le micro.
Ah, mais attends, je Et donc, alors, je pensais avoir une astuce vraiment qui était, pour le coup, pas chère, mais ça revient quand même un peu cher.
J'allais dire le prix.
Alors, en gros, bah, tu vois,
Le prix, Maryse.
Le premier...
Putain. Oh, la gueule.
On sait ce qu'il regarde, hein. Ça y est.
Donc, en fait, j'avais acheté un premier pot de... J'avais pris de la Tolins. Je me suis dit, ça va me prendre juste un pot. Donc, j'ai pris de la bonne marque. Et puis,
enfin, c'est la marque de le roi Merlin.
Non.
Tolins,
c'est
Tolins.
C'est Tolins.
Ah oui.
C'est profondeur de débat parfois.
Tolins.
Non, mais on est sérieux ou on l'est pas? Je t'arrête tout de suite. Tolins.
Attends, tu rigoles pas avec Tolins. Tolins, c'est Tolins, ok?
Et c'est quoi, un pot de 5 litres?
Non, un pot de 1 litre.
Le mec fait semblant de s'intéresser.
Mais non, c'est super intéressant.
Mais c'est un fût de 200 litres ou pas?
Alors, donc, j'avais acheté un pot de 1 litre de Tolins qui m'a coûté 15 euros.
Oui,
ah, il t'en a valu deux.
Et c'est pas
non,
assez.
Parce alors que la deuxième fois, je me suis dit, attends, ça va faire 30 euros pour le fauteuil qui a.
Alors qu'une bombe,
ans.
Ça coûte combien?
Non, alors non, c'est pas pour le. La bombe, je pense que j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. C'est surtout pour la deuxième couche, du coup, j'ai acheté de la peinture Bricorama blanche à 3 euros, puis j'ai mis du noir, et puis en fait,
ça
c'est
fait
mieux.
Gris. T'as mis du noir.
Ah ouais, tu réduis donc encore ton coût à.
Alors là, pour le coup, si j'avais fait les deux couches comme ça, ça m'aurait coûté 10 euros.
Ah, mais tu rajoutes génial. Du noir, du colorant.
Du colorant noir pour faire du gris, parce que donc j'ai repeint mon fauteuil en gris. Il était corail moche et là, il est gris.
Ah ouais, c'est
la classe.
Et quand le chat fait ses griffes dessus, ça écaille pas?
Non, pas du tout. Non. Pourquoi t'as
mais
vu
non,
un truc?
Il est en train de le faire.
Ah, d'accord.
Du coup.
Ah, oh le bordel.
Ah non, attends, c'est parce que Nico veut prendre
le fauteuil. Voilà, Nico a enlevé le fauteuil pour qu'on le voit bien, je pense, c'est ça? Ah non, il prend une petite photo. Donc voilà, donc j'ai cousu un petit coussin pour
tu
mettre par-dessus.
Arnaud,
c'est joli, c'est mignon.
C'est bonne à marier, toi,
non? Ah, c'est mignon.
Très mignon.
Et voilà, ça relouque.
C'est sûr
fauteuil.
Que par rapport au corail criard à côté, ça.
Et puis, criard
c'est plus passe-partout.
Bah, carrément.
Bah oui, voilà. Donc un petit coup de peinture et c'est reparti pour 5 ans.
C'est super.
Tu mettras un corail aussi en photo.
J'aime bien l'idée parce qu'en fait, on peut faire un truc très graffiti, en fait.
Ouais, mais après ça te revient vite cher en peinture, par voilà, contre.
Voilà, c'est ça. Après, c'est faut acheter plein de couleurs.
En fait, tu peux te faire une base d'une couleur neutre et puis après peindre par dessus avec plusieurs couleurs.
Tu prends du blanc et des colorants. Ouais, et
voilà.
Puis tu...
Exactement. Voilà. C'était mon petit test. Bravo.
Test approuvé.
Test de ratio.
Oui,
non, pas test de ratio.
Non, c'est bien.
Pas du tout.
C'est brico déco.
Ouais, voilà. Homestaging et encore. Tu fais avec ce que t'as au départ et tu transformes. C'est du homestaging.
Voilà, exactement.
Chapeau.
C'est du développement
bravo.
Durable en même temps.
C'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est
bon, bah moi, je vais chercher les gamins. À tout à l'heure.
En même temps que tu reviennes.
Et puis, ils ont pas de...
Non, si, Didouille, il y a 5 minutes. Pas, j'étais pas prévu. Moi, c'est 5 minutes.
Moi, je suis à peine 5 minutes aussi.
T'as quelque chose aussi, toi?
Ouais, peut-être. Mais seulement si... Non, mais c'est... sinon, je le ferai tout à l'heure en coup de cœur. Si ça dure moins d'une minute.
Parce que
les 5 minutes qui font moins d'une minute.
C'est quoi ton truc?
C'est une imitation.
C'est pas ton coup de cœur.
Garde-le en coup de cœur.
Ah bah, je garde en coup de cœur. Oui.
Sinon, t'as un coup de cœur ou pas?
Ah bah non, pour l'instant. Ouais.
Et comment faire simple quand on peut faire compliqué?
J'adore bosser avec des professionnels.
Non. Moi, c'est juste un petit.
Attends,
un petit
jingle.
Allez, plus privé.
Bien la tarte au poil.
Moi, ou rien.
Putain, mais pour que ça se touche, quoi. Faut une soirée de fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, dis pas, mais là, c'est de la part tous pour Dalai Lama, là, des conneries.
Moi, ou rien.
D'ailleurs, à ce sujet,
top,
Richard, il t'a répondu, il a regardé Hard, il a trouvé ça sympathique.
Oui.
Pourquoi?
Non, mais voilà,
oui,
la il ne l'a pas dit, nous.
Si, il a envoyé un mail à Marius,
oui.
Il m'a fait suivre et j'ai oublié de vous le faire.
Ah, voilà, d'accord.
Tiens, ouais, on cache des choux.
Voilà, c'était juste pour dire que, suite à notre recommandation, il avait regardé.
Wow. Il dit que ça l'avait pas fait bander plus que ça.
Didouille, je sais pas si c'est un rapport justement.
Pas du tout, moi c'est un rapport avec le cinéma. Alors on vient de parler de Jared Leto, beau gosse. Je vais vous parler du sex symbole Leonardo DiCaprio qui est encore une fois nommé au César. Qui est nommé pour les Césars.
Les Oscars.
Non, c'est parce que
pour
les Césars
pour
c'était
les
chez Awards. Nous. C'était chez nous et c'était hier.
Bah, c'est pour bientôt.
Et là, oui, ça va arriver. Et vous n'êtes pas sans savoir que Leonardo DiCaprio n'a jamais obtenu la statue. Donc, ça a suscité des idées que j'ai trouvées absolument géniales. Et donc, des développeurs de The Line Animation ont créé un jeu qui s'appelle Leo's Red Carpet Rampage.
J'ai vu passer, j'ai pas regardé, mais.
Et c'est une sorte de jeu d'arcade, un runner. Vous avez donc Leonardo DiCaprio, le petit personnage, qui doit courir sur le tapis rouge après sa petite figurine, l'Oscar. Donc on doit l'y aider pour ça. Mais il devra éviter plein d'obstacles, notamment les paparazzi, Lady Gaga. Mais oui, alors ça m'a fait beaucoup rire, Lady Gaga. Gaga. mais aussi ceux qui. Les conomés dans.
Mais quoi?
Qu'est-ce qu'il y a?
Les conomés.
Oui, d'accord. Il est nommé dans une catégorie et tu as les conomés.
C'est pas l'économa,
c'est pas K-O-N-O-M-E.
Autant
non.
Reparler.
Et dans les
conomés.
Donc, les conomés sont Matt Damon, entre autres, Michael Fassbender aussi. Et donc, il devra les éviter. Il devra aussi gagner des bonus. Et moi, j'ai essayé. Eh ben, je vous jure, c'est super addictif. Et je trouve ça super rigolo.
Plus addictif que Candy Crush.
Ouais, voilà.
Plus addictif que Candy Crush.
En tout cas, pas forcément, mais je trouve que l'idée, elle est super. Alors, attendez, je vous montre juste une petite photo. J'ai fait une petite capture d'écran.
En tout cas, ça prend suffisamment de temps pour pas remplir le conducteur.
Le conducteur, exactement. Donc,
merci Freddy, toi, j'ai même pas besoin de faire mon relou là-dessus.
Vous avez différents niveaux. Hein, va falloir passer.
J'ai vu passer ça, mais j'ai pas regardé comment ça fonctionnait.
Vous avez différents niveaux et
ça joue sur navigateur internet ou c'est
oui,
une
c'est
application.
Ça. Non, tu joues sur internet et en fait le but c'est de faire gagner l'Oscar à Leonardo DiCaprio qui est nommé donc j'ai oublié de le rappeler pour The Revenant.
Oui, mais donc dès ce soir ton appli ou ton jeu sera obsolète parce que Ricardo.
Mais je crois.
parce que moi
Ricardo,
je l'appelle Ricardo.
Bignodio, là.
Ricardo DiCaprio va avoir son premier Oscar.
En tout cas, s'il l'a pas, ça sera quand même la malédiction.
Ceci dit, il s'est fait descendre ce matin dans l'émission de France Inter.
Le masque et la plume, oui,
non, pas du tout.
On aura tout.
Non, le masque. L'émission de cinéma de Laetitia Masson. On aura tout vu. Exactement. Et donc, avec
Cerno.
Elle a adoré.
J'ai reparlé.
Elle a adoré, mais je crois que c'est Laurent Delmas. Alors lui, il a trouvé ça nul.
Après, les goûts et couleurs.
Hein. Ouais, mais Laurent
Delmas, il aurait pu l'avoir pour Shutter Island, par exemple.
Oui, mais il l'a pas eu.
En même temps, Laurent Delmas s'est fait traiter de dépressif, du coup.
Voilà, c'était mes petites 5 minutes.
C'est nickel.
Merci, Didouille.
Merci.
Et comment s'appelle ton application, Léo and the
Leo's Red Carpet? Rampage, la fureur de Léo sur le tapis rouge, si on traduit littéralement.
Ok.
La course folle de Léo sur le.
Rampage, c'est le massacre.
Ouais. Oui, mais la course, enfin, l'acharnement.
Le course folle.
Non, mais c'est. voilà. Ok, d'accord.
C'est moi qui le traduis comme j'ai envie.
Mais c'est bien, c'est très bien.
Parce que moi, je suis pas allé à Coney Island.
Vous êtes fou de la relancer, mais arrêtez.
Donc on reprend. Donc c'est moi qui reprends sur ce coup-ci.
On reprend. Là ça marche.
C'est à mon. Tu ne diras rien. Non. C'est à mon tour.
Mais tu
donc
vas bien nous châtier.
Je vais lancer.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco daco chaboutadouti.
L'éléphant de tiroir. Les fonds de tiroir. Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'ai l'habitude de traiter, hein, que ce soit au micro ou que ce soit à l'époque sur mon blog. Donc
tu vas reparler.
Je vais reparler de musique et notamment de musique un peu costaud, donc avec Rammstein, donc un groupe allemand, pour un coffret qui s'appelle In America. Donc c'est un coffret que je me suis offert il y a pas très très longtemps, donc il
comment tu l'as pas offert pour la Saint-Valentin?
Non. Je suis assez grand pour me faire mes cadeaux. Et donc je me suis offert donc ce coffret avec un concert de 2010, donc en 2016 ça commence un petit peu à dater, sur lequel on trouve un disque, un CD de bonus en fait, enfin ou un DVD de bonus dessus. Donc le concert est plutôt pas mal, pas forcément très très bien réalisé à mon goût en termes de retranscription. Puisque pour moi, Rammstein, c'est un groupe très visuel, et notamment en concert, il faut vraiment que ça tape.
Je confirme.
Et ici, on a un montage que je trouve sans réel lien vraiment avec la musique et le groupe. Je trouve qu'il est sans pep, sans punch.
Pas de relief.
Je le trouve un peu fadouille, le montage du concert.
Ah, du concert, oui, pardon, excusez-moi.
Voilà.
Oui, d'accord.
Et puis, il n'y a pas beaucoup de plans larges qui permettent d'apprécier la scénographie du groupe, puisque c'est un groupe qui travaille notamment sur ses effets visuels et pyrotechniques.
Et du coup, c'est pas assez mis en valeur, en fait.
Non. Et je trouve vraiment que le concert est moyen.
D'accord.
Et notamment le public aussi américain. Et alors je sais pas si c'est parce qu'il est très discipliné dans habituellement ou si vraiment là les plans sur le public font vraiment. Ça serait un public qui irait voir du Céline Dion. Je pense que on aura à peu près la même réaction.
Qu'il y a pas d'ambiance.
De mon
quoi.
Point de vue, j'ai pas une impression de participer à une voilà. Bon, j'ai trouvé un peu aseptisé à mon goût. Donc, pour une découverte du groupe, je pense que ça peut être sympa, ce concert. Mais quand on connaît le groupe, j'ai trouvé ça un peu pour avoir vu le groupe deux fois à Bercy,
oui.
J'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais pu voir sur scène.
Voilà. Et au niveau du son, en fait, par contre, parce que le son quand même rend.
Oui. Ouais. Ça rend plutôt pas mal. Voilà. C'était quelque chose de plutôt intéressant. Alors, pourquoi je vous parle de ça si c'est pour dire du mal, vous allez me dire.
Pourquoi pas, hein, en même temps.
Non, parce qu'en fait, je m'étais planté. C'est-à-dire que je pensais avoir acheté un coffret d'un concert avec un disque bonus. Et en fait, c'est le contraire. J'ai acheté le coffret d'un documentaire avec un concert en bonus.
Ouais.
C'est-à-dire que le principal intérêt de ce coffret, c'est pas du tout le concert, qui est assez accessoire. C'est vraiment le. C'est le bonus. Que moi j'avais vu comme un bonus, mais qui en fait est le cœur même de ce coffret.
Ce sont des nouveaux titres donc.
Non, pas du tout.
Puisqu'en fait, moi, j'ai vu le documentaire, mais je n'ai pas vu le concert en fait.
D'accord. Voilà. Enfin, il y a quelques images dans le documentaire, je crois, mais si je me souviens bien.
Pour ça, je demandais pour le concert.
Donc dans le bonus, donc dans le deuxième DVD, il y a un making-of du dernier album. Donc je vais essayer de le dire avec mon accent allemand à moi. Donc Liebe ist für alle da.
Liebe
ist für alle da.
Voilà, d'accord.
Non, Liebe ist für alle da.
Voilà, donc c'est exactement.
Qui signifie ?
Je ne sais pas du tout.
L'amour est ici pour tous.
D'accord. Donc, ce making-of est plutôt, je dirais, assez classique, mais assez intéressant. C'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire, mais c'est assez sympa. On voit le groupe pendant les 6 mois d'enregistrement du dernier album. Donc, parfois, ça ressemble un petit peu à un film de vacances, mais ça permet de voir le groupe, parce que Rammstein, pour les gens qui connaissent juste un tout petit peu la musique ou quoi que ce soit, ça a quand même un côté un peu rouleau compresseur. Hein, c'est
musique, c'est déjà un grand mot.
Oh là, attention, parce que là on va partir dans un débat.
Non, en fait, ce qui peut choquer, c'est la façon dont c'est phrasé. Parce qu'au niveau musical, moi, je trouve qu'il y a des mélodies. J'adore Rammstein. Alors, pour que j'aime Rammstein, c'est que...
Et l'interprétation même.
Mais l'interprétation, exactement.
En roulant les airs, très
voilà,
lyrique.
C'est-à-dire qu'au lieu de parler le Hochdeutsch, il parle le Plattdeutsch.
Certainement.
Voilà. Mais c'est ce qui ajoute à toute la... Moi, je trouve, à toute l'atmosphère de la musique.
Voilà. Donc, du coup, on voit quand même... Contrairement à cette image qui peut être un peu froide, un peu provocatrice, un peu tout ce qu'on va bien, on voit que c'est finalement des gens assez normaux qui aiment se rendre à la campagne pour enregistrer leur album, dont un qui va dormir dans un... Enfin, tu l'as vu, celui... Oui. Le bassiste qui va dormir dans sa petite cabane parce qu'il aime pas trop la foule, etc. Enfin, c'est un petit côté qui donne qui crée un lien avec le groupe, je trouve. J'ai trouvé ça très, très intéressant dans son montage, qui apporte vraiment un plus. Alors par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est
pas facile. Nico,
c'est pas facile, mais c'est pas grave.
T'as une tâche difficile.
Ce qui est vraiment intéressant,
tout le monde s'amuse à prendre des photos
là.
Donc,
c'est
toi aussi, t'as une Alors, sans mes lunettes, je vais essayer de continuer mon truc. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est le documentaire vraiment qui s'appelle In America, qui est juste passionnant à mon sens, et qui mérite à lui seul l'achat du coffret et son visionnage, même pour des gens qui ne sont pas forcément fans du groupe.
C'est passionnant, en fait.
On a 2 heures de documentaire, rien que ça. Donc quasiment autant que le concert en lui-même, comme je disais tout à l'heure, qui est assez anecdotique finalement. Et on suit le groupe Rammstein dans leur péripétie aux États-Unis,
dans leur conquête de l'Amérique.
Voilà.
Et leur péripétie, parce qu'ils ont quand même pas mal de péripéties. Hein. C'est pour ça que j'avais bien pris ce mot-là, parce qu'ils ont un périple, mais ils ont quand même rencontré pas mal d'obstacles sur leur route. Donc leur arrivée dans les années 90 a été assez violente. Qu'est-ce qu'il y a ?
T'avais pas ramené un couteau tout à l'heure ?
Ah non.
Oh, j'ai envie de faire caca là, je vous laisse, j'ai envie d'aller faire caca. Je peux y aller là.
Je comprenais pas ce geste de la main, mais ok.
Moi, je sais pas, je voyais un geste peut-être pas érotique, quelque chose, et je sentais bien qu'il y avait un appel à quelque chose, mais à quoi, je sais pas. Un couteau. Bon.
Donc oui, le documentaire retrace un peu leur arrivée dans les années 90. Eux, les Allemands de l'Est, parce que quand même, faut quand même se rappeler que c'est un groupe qui vient de l'Est de l'Allemagne, et qui, au début des années 90, sont tous partis, eux, jeunes, la vingtaine, fringants, etc. Avec leur image d'Allemands de l'Est communiste aux États-Unis, et ça a été un gros choc pour eux.
C'est vraiment la génération qui a vécu la chute du mur de Berlin.
Exactement.
En fait, dans leur adolescence. Hein,
avec même s'ils avaient certaines images de l'Amérique qui n'étaient pas du tout représentatives de la réalité.
Ouais,
donc il y a eu des gros problèmes de repères culturels. Sans parler de la barrière de la langue, puisque les Allemands de l'Est ne parlaient pas du tout anglais.
Eux-mêmes ne parlaient pas anglais, d'ailleurs.
Il y en avait un qui balbutiait des mots en anglais, mais eux ne comprenaient pas du tout ce qu'on leur demandait.
Le chanteur, c'était pas un champion de natation olympique de l'Allemagne de l'Est ?
Alors, pas olympique, c'est une légende urbaine, mais il était dans les espoirs de la RDA.
Voilà, c'est ça.
En tant que.
Il était dopé, quoi.
Ouais, voilà. D'ailleurs, ouais, quand tu vois le physique que c'est, machin.
Quand tu vois l'armoire.
Ouais. Enfin, c'était une femme à la base, hein, donc. Jutil Lindemann.
Donc, on a des interviews de différentes époques qui sont bourrées d'anecdotes relatives aux différents soucis ou aux bonnes choses aussi qu'ils ont rencontrées dans le pays. Donc, pour des Allemands qui, eux, arrivent qui arrivent d'un pays qui est hyper réglementé, la RDA, qui arrivent aux États-Unis où, d'un État à l'autre, la réglementation est très différente. Ils comprennent pas forcément comment ça se passe en termes administratifs, en termes de mœurs aussi, puisque c'est très très différent. Tu vas du Texas à la Californie, c'est pas forcément la même approche. Et eux ont été très 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 fortement impactés par ce problème. Pareil, leur problème relatif à la pyrotechnie, puisque c'est un groupe qui travaille beaucoup avec les explosifs, etc. Donc il fallait prévenir les pompiers. Dans certains États, ils sont interdits de séjour. Et puis ils ont aussi, pour certains, connu de la prison.
Ah ben oui.
Pour conduite indécente, c'est-à-dire qu'en plein concert, ils se sont fait enlever un par un, ils expliquaient à un moment, un par un, c'est-à-dire que le guitariste qui était au premier plan, il se rendait compte qu'il se retournait, et à chaque fois qu'il se retournait, il manquait un membre du groupe. Parce qu'en fait, il y avait la police qui était là, et qui les emmenait tous, un par un, Parce que voilà, c'était conduite indécente, propos inappropriés, etc.
Notamment après mémorable Bugdish.
Moi je l'ai connu, le canon pénis.
Ah, c'était pas le canon pénis, on y va encore.
Non, ça,
là c'est le morceau qui s'appelait Bugdish.
Ça m'avait parlé de toi. C'est...
le canon pénis, c'est toi.
En fait, il jouait avec le claviériste.
Voilà, il jouait. Enfin, c'est une relation sadomasochiste, dominé-dominant, le chanteur avec le claviériste, avec un faux pénis.
Pénétration simulée.
Voilà. Simulation, etc., mais qui aux États-Unis ne passe pas et qui leur a valu.
Éjaculation sur les fesses.
Ouais, voilà, enfin bon.
Mais c'était du lait, ça va, voilà. Sur le public.
Et c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués, en fait.
Bah, même quand tu le vis, ça marque.
Et donc bon, au-delà du groupe, vraiment, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour avoir une vision extérieure de l'Amérique des années 90 et 2000. Ils expliquent aussi le basculement, eux, de leur point de vue, suite au World Trade Center, aux attentats du World Trade Center, où ils étaient eux-mêmes aux États-Unis. Et donc, il y a une vision un peu, je dirais pas sociologique ou géopolitique, mais qui permet de montrer un petit peu une approche de gens complètement extérieurs à ce pays. Au début des années 90, et qui maintenant ont d'ailleurs eux-mêmes mettre en avant le fait qu'ils ont complètement intégré les codes américains dans leur spectacle, c'est-à-dire qu'ils ont pris le côté production, le côté show américain. Ils sont vachement inspirés entre le groupe quand ils gratouillaient dans leur cave, et puis maintenant c'est ça aussi qui les a fait complètement exploser, quoi.
Johnny Hallyday s'étant lui-même inspiré de Rammstein.
Certainement.
Le feu, tout
certainement
ça.
Je pense.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à un moment dans le documentaire, ils expliquent comment à un moment ils sont arrivés à pénétrer dans le marché américain. Notamment, en fait, n'est-ce pas?
Il reste des réflexes de Richard Allen.
Ah, oui, c'est clair. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, pour un groupe qui est allemand, Allemagne de l'Est, qui chante en allemand, je veux dire, c'est assez fort d'arriver déjà à faire une percée, et grâce à David Lynch, mais je sais pas si tu l'as
oui, parlé, effectivement. Lost Highway. Voilà. Et c'est Lost Highway qui les a fait connaître. Et ils se rendent compte que justement, enfin eux-mêmes, ça a dépassé complètement leurs attentes, puisque il y a des gens qui viennent les voir à la sortie des concerts, des Américains qui leur disent « Je me suis mis à l'allemand juste pour comprendre les paroles de vos chansons, etc. » C'est pas quelque chose qu'on attend forcément de... Enfin, moi bon, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'imaginais des Américains.
C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, déjà, c'est mettre à l'allemand.
Moi je m'étais mis à l'allemand pour comprendre « Neun und neunzig Luftballons » de Nena.
On mettra pas cet extrait-là parce que ça reste dans la tête après.
Allez, Didouille, toi.
Vas-y, Didouille.
Allez, Didouille, un petit.
Rumschickt ein General.
Quelle horreur.
C'est bon, je l'ai.
On la suite.
Donc. Ceci dit, dans leur titre,
We are living in America. Là, c'est en français. Là.
Ils parlent un peu anglais.
Ils chantent en anglais, mais c'est aussi de la parodie, en fait.
Oui, parce qu'ils font America is Wunderbar, et puis Coca-Cola Wunderbar.
Et puis voilà, c'est les mauvais côtés de l'Amérique, entre guillemets. C'est de dire, maintenant qu'on a connu un peu l'envers du décor, voilà comment on le voit.
Ce qui peut choquer, quand on écoute comme ça pour la première fois Rammstein, clairement, le timbre, la façon dont c'est phrasé, les textes, par contre, enfin, peuvent choquer, ça dérange, hein, ça dérange. Par contre, les textes, en général, naissent de faits qui se sont passés soit en Allemagne,
je pense à
Mein Teil, ma part.
Oui,
excusez-moi.
qui est dû, enfin, c'est le cannibal allemand.
Et c'est voilà, c'était un fait divers qui avait eu lieu, je sais plus, c'était à Dortmund ou à. Je sais plus, bon, enfin bref, Hunger en Allemagne.
Ou Munich ou Cologne.
Et c'était un serial killer, un cannibale
qui passait des annonces,
voilà, pour.
Il y a un très bon épisode de The IT Crowd là-dessus, d'ailleurs.
C'est comme ça qu'il a, mangé Donatarte.
donc voilà, c'est vraiment un documentaire qui est intéressant et qui réunit aussi de nombreux guests, de nombreux artistes, puisque. J'ai pas la liste complète, mais on a Marilyn Manson, Iggy Pop, les membres de Korn, Moby, Chas Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, Wes Borland de Limp Bizkit, Kiefer Sutherland de 24 heures chrono, les Ramones, System of a Down, etc., etc., qui expliquent à quel point eux se sont aussi eux-mêmes inspirés de temps en temps de Rammstein et à quel point ils trouvent que c'est assez intéressant. On a plein d'images d'époque et d'interviews vraiment, vraiment passionnantes. Donc ça, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur le concert, je trouve que c'est très beau, très bien monté, et on sent une vraie émotion dans ce documentaire que je trouve pas dans le concert, qui est sympa. Je l'ai encore regardé hier soir pour me remettre dans le truc, qui est sympa mais qui est pas transcendant, quoi. Donc
Oui, pardon. Oui, ce que tu dis, le documentaire, de toute façon, qu'on aime ou pas la musique, ça se retrouve aussi parfois dans beaucoup de documentaires ou de films sur des groupes et tout. Tu peux, sans apprécier la musique, apprécier l'aventure humaine, quoi, qui est racontée.
C'est ce qu'un échange qu'on a vu avec Christophe, qui avait beaucoup aimé celui sur Kurt Cobain.
Metallica.
Et sur Metallica aussi? Oui. Je ne savais même pas, alors là, j'en tombe de ma chaise. Mais même sur Kurt Cobain, dont tu avais trouvé le documentaire Montage avec passionnant. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si on fait abstraction de la musique et juste, on reste au propos. Ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, je vais pas forcer.
Tu me prêtes?
Si tu veux. Bah, il vient juste de passer 3 mois chez toi, mais.
ça vous montre à quel point notre couple communique.
C'est bien. Donc.
Et dans communique, il y a commune.
Donc, voilà, on a aussi un moment où le documentaire se transforme en vie en tournée, notamment sur la vie en tournée aux États-Unis, qu'on n'imagine pas forcément parce qu'on voit toujours le côté glamour paillettes. Et eux nous disent que non, c'est un pays qui est forcément très long, très grand, pardon, avec des transports qui sont très longs et le temps d'ennui et d'emmerdement est incalculable. Et au bout d'un moment, tu te fais vite chier et il y a des moments où ils savent pas quoi faire. Ils tournent en rond, l'avion. Ils arrivent dans des villes qu'ils connaissent même pas. Ils arrivent juste là. Il y a les rodistes qui montent le truc. Ils font leur concert. Ils se barrent parce qu'ils sont tellement claqués des 20 heures de route depuis le précédent concert que ils voient rien. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on.
Les États-Unis, c'est long, c'est chiant. Finalement, l'Anthropode, c'est un petit bout d'États-Unis.
Ah, bien vu. Donc, on a de très très beaux plans américains, sur les paysages américains, pardon. Et, enfin, vraiment, c'est un documentaire que j'ai vraiment trouvé très très intéressant. Et ce groupe, comme tu disais tout à l'heure, Didou, il y a un côté assez fascinant. C'est-à-dire que moi, je m'en cache pas, j'ai un problème avec la langue allemande. Je trouve pas ça très beau.
Warum?
Voilà. En termes de sonorité, moi, ça me parle pas. Et pourtant, j'en fais complètement abstraction avec ce groupe. C'est-à-dire que au contraire, même, je me surprends à essayer de parler, à reprendre les trucs quand je l'écoute, etc.
Ah, prosit.
Lui, il connaît les chants pour la fête de la bière.
Donc, en tout cas, je trouve que le documentaire fait ressortir l'authenticité du groupe, ouais. la vraie sincérité de ce qu'il y a. Et finalement, comme c'est ce que Moby dit, je le cite puisqu'il le dit.
Non, Moby Dick.
Je lui cite.
Donc, on peut aller voir Rammstein, même si on n'aime pas leur musique ou le métal en général. On y va pour le show et pour les personnages. Et c'est exactement comme ça que je l'ai souvent vu. Oui, Didouille.
Et c'est exactement ce que j'ai vécu, parce qu'au départ, Rammstein, j'aimais pas trop Ludo écouter. Ça me gênait, c'est ce que je disais, le côté un peu vraiment teuton, hein, me gênait énormément.
Et moi, j'aimais bien le côté téton.
Et en fait, je suis allée le voir à Bercy, parce qu'il faut le préciser aussi, ils peuvent pas se produire dans n'importe quelle salle. Il faut que la salle soit spécifiquement adaptée pour le show pyrotechnique, parce qu'il est hyper impressionnant, ce show.
Je me rappelle à Bercy, on était au milieu de la fosse avec Ludo et on sentait la chaleur des lance-flammes.
Exactement. Et ben moi, je me souviens.
De fou, quoi.
Alors moi, quand j'y suis allée avec Ludo, parce que du coup, il m'a dit, Didou, il faut absolument que tu viennes voir un spectacle de Rammstein. Ouais. Ce que j'ai fait, je l'ai suivi. La preuve en est, j'ai tellement adoré que je suis revenue avec mon t-shirt. On était dans les gradins et justement, il descendait sur scène du côté où on était assis. Mmh. Et eux, ils se mettent sur eux un produit justement par rapport à tout ce qui est flamme. Ça sentait, mais fort, fort. Alors déjà, les mecs, show, il est impressionnant parce que physiquement, ils portent, et je me souviens quand ils portent les ailes en métal qu'ils déploient.
Sur Angel, ça.
Voilà, sur Angel.
c'est Louis Siffle, en fait.
et tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je vais voir? Et en fait, j'en ai pris mes plein la tronche, et oui, je le dis, hein, c'est
au moment où ils ont joué avec le canon.
Le
pénis canon,
j'en
ai pris plein la gueule.
Le pénis canon, ils l'ont gardé pour la fin.
C'est sur Poussy, c'est pas la meilleure chanson d'ailleurs.
Voilà, c'est quand il y a eu un rappel. Mais je me souviens de cette image de lui en ange avec ses ailes là qui commencent à s'enflammer.
Scénographique
et ce cœur rouge qu'il a dans les mains. Et il y a vraiment, je n'ai jamais pour l'instant encore vu un spectacle de cette grandeur là, c'est impressionnant.
Et c'est pour ça que je trouve que le concert ne rend pas hommage, parce que les plans sont très cut.
D'accord.
Ce qui fait que tu passes vite d'une image à l'autre, ouais, etc. T'as pas la possibilité de vraiment apprécier
l'ampleur
toute la mise en scène qu'ils mettent en place. Parce qu'on parle de ça, mais il y a aussi des moments où ils ont des espèces de systèmes hydrauliques qui les font monter super haut, ou des lumières, des ventilateurs. Enfin, il y a plein de choses. Et ça ne rend pas hommage. Ça reste sympa. Mais c'est vraiment le documentaire qui donne envie de revoir ce groupe-là. Il passe cette année au Hellfest et au Download Festival. J'espère pouvoir participer à l'un des deux. Et voir
c'est
un
où
peu
le
ce que
Download
ça...
Festival ?
Le Download Festival, c'est à l'Hippodrome de Longchamp.
Ah, c'est bien ça. C'est où ? C'est quand ?
C'est une semaine ou 15 jours avant le Hellfest. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est ouais. que ça fait ouais. des week-ends un peu chargés en juin. Donc, mais bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Sinon,
pour voir les mêmes artistes.
Toi, tu regardes pas
sinon,
les
sinon, si vous avez un doute sur l'allemand, il y en a qui font comme en anglais, ils font du yaourt. Hein.
Oui,
vous connaissez donc, les hallucinations auditives.
Oui. Ah oui,
il y a un titre de Rammstein où ils disent les petits motards font des haltères.
Les petits motards on font des haltères.
Et voilà.
Et voilà. Il y a un épisode de Y penser, puisqu'on rebondit sur les choses, sur les hallucinations auditives. Voilà. Et donc, c'est un très beau coffret en plus, que je trouve que le packaging est plutôt joli. Bon, bah, forcément, ils sont à poil dessus parce qu'ils ont un côté un peu subversif, etc. De dos. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai donné. Tu dis.
T'as donné envie.
Ah, bah écoute. Bah, alors, il faut faire abstraction de la musique, mais le reste oui, est vraiment... Enfin, faire abstraction ou pas, d'ailleurs, mais...
Non, mais d'ailleurs... Bah, oui,
pas
mais...
forcément, parce que, justement, le concert t'embarque tellement
c'est un...
que, justement, là, pour le coup, t'es aussi attentif aux
non,
musiques.
Non, à la limite, faut jeter un oeil. Après, tu peux...
Des qu'on peut ne pas aimer, voilà.
Et au-delà de ça, il y a aussi des balades, quoi. Vous écoutez Amour, Amour,
ouais,
elle est très jolie.
Ouais, non, ça, c'est
au pire, on peut regarder et puis couper le son.
Oui, mais ça, oui, mais
bah ça... non, justement non.
Ça je te montrerai juste vite fait tout à l'heure
chose
un peu
à la place,
que ça représente. Oui, ça. Et
puis tu mets après, du Cabrel. Tu mets des Cabrel derrière du Rammstein.
Je t'aime et je t'aimerai.
Mais les enfoirés.
Non, là c'est pas pareil, il faut foutre le feu là.
Oui, Ludo, après, je sais pas, ils ont sorti un live qui s'appelait Folker Ball, qui était.
Oui.
Et alors, je peux pas comparer trop pour quelqu'un qui découvrirait ce qui est le mieux entre ce concert-là ou celui qui a été filmé sur Folker Ball.
J'ai pas Folker Ball, donc.
Voilà. Très belle photo dans le DVD.
Ah ouais, magnifique.
Donc, pourquoi tu me les donnes Il dit Marie, ça, il me regarde et il me dit tiens, regarde, va voir. Putain, je le déteste.
Bah, Arnaud, tiens, justement.
Ouais.
Puisque je crois que c'est à toi.
Non, c'est pas lui.
C'est pas moi, mais.
Enfin, c'est pas toi, mais c'est toi qui vas céder la parole à quelqu'un.
Bah, rendez-lui ses lunettes.
Rendez-moi mes lunettes.
Ah, pardon.
Ah, il a mis ses lunettes en tibulé.
Ah, ouais, ouais,
allez, Arnaud.
Les auditeurs ont la parole.
Et donc, effectivement, je vais passer la parole à un auditeur qui apparemment Nico a demandé de venir pour rebooster les audiences de l'émission. Mais...
ouais, parce que c'était assez craint un peu là. Pour...
Bonjour non à tutti. Nico, il a imposé une nouvelle ligne éditoriale pour l'Anthropod depuis que l'émission avec Richard Allan a dopé le téléchargement. Assino, assino, assino en italien. Ma que du cul en français. Alors, il m'a invité ici pour donner un côté sexy à l'émission. Bon, c'est dommage, on est filmé. Je concède, ça peut limiter un peu la machine à fantasmes. Mais je me rends compte que je ne me suis pas plaisanté. Scusi. Je m'appelle Coro. Coro. Non, pas Rocco. Coro. Comme le corail. Oui, je suis un très bon amico de Richard Allan. Je suis acteur de film X. C'est Richard qui a lancé ma carrière. Ouais, et Richard il m'a découvert sous l'eau alors que je m'ai tapé un thon. Ah. Non, pas un poisson, attention, je suis pas piscifile. Pour Marius, piscifile c'est comme zoophile mais c'est pour les poissons. Non, moi je m'ai tapé un thon, une morue quoi. Ouais. Richard il m'a trouvé au fond de la mer, de l'océan. Ah, comme je dis, c'est normal, c'est là que les colons naissent. Personnellement, hein, je suis la vie.
T'as du mal aussi, toi, garder ton accent.
Je suis la vie, j'ai la chance de croiser Freddy. Que Richard, il n'a pas pu l'encontrer parce qu'il était tout fraîchement papa de la petite Philomène. Freddy, c'est la fertilité, la fertilité. Il incarne la fertilité. C'est le périnescope. Ah, il est pas comme mon ami tchèque, un autre acteur porno, Tommy Vazek, qui peut plus avoir des bambino. Mais oui, tu connais Lulu, toi, qui est le piel tchelnia du cinéma X. Tommy Vazek, Vazek Tommy. Ah ouais, Freddy, je suis amoureux de toi. Puis, avec moi, tu n'as pas les problèmes des bambini. Tu peux y aller, Freddy, je ne te ferai pas un enfant dans le dos. Mais toi, tu peux toujours essayer avec moi. Ah, Freddy, je suis fou de toi, Freddy. Colo aime tellement Freddy. Colo est si Freddy. Freddy, toi comme ton quiz. Toi es doux, toi la peau fine. C'est vrai, tout le monde le dit que ton quiz, tout le peaufine, hein, Freddy. J'ai eu le coup de cœur pendant que je t'observais en train de déjeuner ce midi. Comme la belle et le clochard devant un plat de pasta. Cette façon que tu avais de déguster ces pastas devant moi. J'adore comment tu mâchais tes pâtes devant moi. J'adore comment tu mastiquais la nouille, Freddy. Dis-moi Freddy, est-ce que tu peux m'accorder une faveur? J'aimerais tellement pouvoir glisser ma main entre tes quiz. Ah, ça fera moins mal que les fameux crânes de béton. Christophe, quand tu te réveilles après une nuit de fête et que tu as la tête, enfin sa tête dans le cul. Ouais, faut faire attention, Freddy. J'ai étudié un peu l'anatomie en première année de médecine à Florence. Il y a des terminaisons nerveuses de la sino, le cul. Et que si tu vas trop loin, tu peux paralyser un petit peu le visage. Mais, je taquine Freddy et Christophe. Mais dans le fond, je sais que toute l'équipe, c'est des coquins. Marius, je pourrais te épiler le hérisson. Comme au bon vieux temps, Freddy, Marius. Marius, il faut savoir que je l'ai connu dans une autre vie. Il était photographe de romans photo érotiques le jour. Et la nuit, il s'est déguisé en femme, en gypsy queen. Il aimait organiser du sexe en groupe, dans sa roulotte. C'est pour lui que les House Maltins, ils ont écrit la chanson. The Caravan of Love, la caravane de l'amour. Et Didouille, je l'ai connu aussi. Intimement, hein. Comme j'ai dit, s'il y a des douilles, c'est qu'on a tiré des coups. Pour ça, j'ai éloigné son mari Lulu quelques heures. Bon, c'était simple. Je lui ai mis une vieille VHS d'une série Z où des molpions géants, ils attaquent une ville peuplée de phallus extraterrestres dotés d'une intelligence supérieure. Là, la gueule des poils. Il était fasciné. Et pendant ce temps-là, je faisais crier des douilles. Oh, c'est pas compliqué en même temps de la faire crier la petite. Et Loulou, frère Loulou, en même temps, il va en reste. Hein. Il organise des soirées coquines entre critiques de cinéma. Qu'il appelait les masques et la plume. Parce que tout le monde y porte un masque et qu'il se met des plumes dans le... Enfin... Nico, Louis, il était très inspiré par le petit train de la place Dauphine dont il a parlé, Richard. Et dans le milieu, on l'appelle le composteur fou. C'est le Guillaume Pépi du cul. Guillaume Pépi, c'est le président de la SNCF.
C'est une bande d'incultes qu'on est.
Et il a développé les mêmes concepts dans la Légion rouennaise. Il a lancé l'Amphilor, en hommage au transport qui dessert les communes rurales de l'agglomération rouennaise. Il fait ça sous l'égide de la métropole. Sa conjointe n'est pas en reste, hein. Starlet. Elle tient son pseudo de son premier film zoophile qu'elle a tourné avec des chevaux. Starlet O'Hara.
Ah, c'est bon ça.
Elle organise des soirées coquines qui les habitués, ils appellent les palties fifines. Rapport à son prénom.
Elle, c'est comme ça que son père l'appelle.
Elle promet aux clients que son mari, il va leur racler les fonds de tiroir. C'est là que j'ai connu Théo Bertou de Hoopstock qui n'arrêtait pas de me demander « Tu avances ou tu ulules ?» Allez, je crois qu'il est temps que je me retire. Ciao tutti e grazie mille.
Grazie, coro.
Bravo, bravo.
Chapeau, vraiment. Corlo, là, m'a impressionné.
Colonès.
Et Freddy.
Bah,
es-tu prêt maintenant? Est-ce qu'on peut glisser quelque chose entre tes quiz? Je ne sais
Faut
pas.
Faut dire que j'ai un prénom qui facilite.
Qui facilite plutôt.
Le jeu Moïx.
Puis.
Es-tu parti? Est-ce que tu veux qu'on...
Alors d'abord, on répète qu'il y a un cadeau à gagner pour celui qui marque le plus de points sur cette session.
Super cadeau.
Je suis sûr que ça va être moi.
Donc en fait, ça va être distribué entre Arnaud et Lulu.
Bon, exactement. Moi je vais aller fumer une cigarette.
Tu peux aller fumer une clope.
OK.
Allons-y.
Alors, un petit thème dans le thème avec
Ça parle peinture ou pas?
Non.
Peinture acrylique?
Peinture sur fauteuil, non.
Merde.
Ça s'appelle Ils sont morts en 2016. Vous savez qu'on est dans une année.
Il y a plein qui sont morts.
Une année noire en termes de décès.
Et elle n'est pas finie donc.
Et ouais, c'est ça le pire. Ouais.
Elle ne fait que commencer.
Donc en fait, on peut avoir.
Ouais,
bon.
Vas-y, fais péter. Non, vas-y, là, je suis bon là.
Allez, on y va.
Je suis bon dans les morts.
Alors, je vous donne la réponse déjà.
Mange tes morts.
Elle s'appelle Katie May. Elle était mannequin de charme américaine, connue pour ses photos coquines.
Katie May
possédait, alors c'est pas rien, 1,9 million de personnes abonnées à son compte Instagram.
Et elle est morte.
Et le 29 janvier dernier, lors d'une séance photo, qu'est-ce qui s'est passé?
Crise cardiaque.
Non.
Et overdose.
Overdose.
Non.
Elle s'est pris les pieds dans le câble, elle est tombée la tête la première, elle s'est fracassée le crâne par terre.
Alors je t'accorde le point.
Putain, merde.
C'est pas vrai.
Mais non.
Alors je vous dis la suite de l'histoire.
Mais elle a dû être qu'il sache ça, lui.
Attends, Katy May, photo de charme, oui. Pourquoi
elle a dû être hospitalisée, non sans avoir demandé conseil auprès de ses abonnés Twitter pour soulager sa douleur. Katy May est morte dans la nuit du jeudi au vendredi 5 février des suites d'une attaque catastrophique provoquée par une artère carotide bouchée.
Ah bah forcément.
Quel rapport avec le
cœur? Elle s'est blessée au cou en tombant lors de la séance photo.
Eh ben exactement. Merde. Non,
je vois que tu connaissais l'histoire, bravo pour ta culture générale.
Mais non, il t'en a inventé une comme ça direct.
Et c'est tombé dessus comme ça, voilà.
Le point, c'est noté, c'est bon.
Point pour Ludo. Oui. Ça fait mal, mais c'est comme ça.
On y va, deuxième question.
Veux ce bouquin.
Demi-point.
Le 4 février, on apprenait la mort. Attention, ça va être rapidité. De Maurice White. Mais qui est Maurice White?
Ah, non. Là,
Maurice Leblanc.
C'est le chanteur
Michel
de
Glavier.
Earth, Wind & Fire.
Bien vu, Christophe.
Bravo, bien joué.
Bravo. Bravo. Earth, Wind & Fire, oui, évidemment. J'avais pas préparé de petits morceaux.
Il y a combien de questions?
Fêter le point de Christophe.
Rien à voir avec Breaking Bad.
Eh, vas-y, il va pleuvoir, là.
Tu peux donner le classement pour
oh, ça va.
Pour Christophe.
À l'instant T.
Pour Christophe.
Christophe quitte la dernière place.
Ah, voilà.
À l'instant. Ah, non.
Ça, c'est pas gentil. Il vient d'avoir un point, puis après, on lui annonce le classement.
Non. Alors, il y a toujours Marius qui est dernier.
Alors, on y va. Troisième question. Le 23 février, alors c'était cette semaine, non?
Oula.
Mardi.
Peut-être avez-vous écouté la radio, lu les journaux. C'est Ramon qui nous a quittés. Mais qui est Ramon?
Joe Ramon.
Je vous donne des indices plus tard si vous trouvez pas, mais posez quelques
Ramon.
Questions.
Ramon, t'as vu que je me la tranche de jambon qui est dans mon frigo.
Acteur?
Non.
Comédien?
Non.
Producteur?
Acteur.
Non, mais
il est chanteur?
Chanteur.
Non, pas du tout.
Il est quoi?
Il est connu ou pas?
Il est connu.
Alors c'est pas vraiment lui.
Personnage fictif, c'est l'ex de Madonna.
Ah, putain, oh merde, je vais pas trouver.
Un écrivain?
C'est vachement intéressant d'avancer.
À vrai dire, je sais pas ce qu'il faisait, mais a priori pas grand chose de.
C'est les réalités.
C'est le copain de quelqu'un qui est connu.
C'est pas lui qui est connu.
C'est sa compagne, sa femme,
non.
Son ex.
Non.
Sa mère.
Ce qu'il a fait.
Non. Mais on tourne autour, allez-y.
Son chien.
Sa fille.
C'est son fils. C'est le fils de quelqu'un.
Non.
Qui veut épouser mon fils.
Non, mais on vous y êtes là.
C'est le père de quelqu'un.
C'est les réalités.
Non.
C'est le père de quelqu'un.
C'est l'oncle de quelqu'un.
Non, c'est lui.
C'est le chien de quelqu'un.
Plus simple, vous dites long.
C'est quelqu'un en fait.
Le père, c'est quelqu'un.
C'est le frère. C'est le frère de quelqu'un.
Oui, c'était le frère de quelqu'un. De deux personnes.
Ah oui, Castro.
Eh oui.
Ah bah bon,
Ramon Castro.
Le grand frère de Raoul et de
Raoul.
Ça serait parti bien là.
Bah non, je me suis énervé pour rien. J'avais pas du tout la réponse.
Et pourtant, il essaie de copier là.
Non, je me suis décalé. Attends.
C'est vrai.
Parce que sinon, oui, regardez. Ah, gueule.
En même temps, j'ai écrit français, peut-être t'aurais pas lu.
et toi, tu te laisses faire, tu dis rien.
Pardon, excuse-moi. Vas-y, bichon. Fais péter les questions.
Allez, on y va. La question réponse. Suivante. Attention, là aussi, peut-être une question rapidité, si vous êtes en forme. On cherche quelqu'un qui était né le 14 novembre...
Michel Galabru.
1922, au Caire, en Égypte.
Pierre
Omar Sharif.
Homme d'État, diplomate égyptien, il fut le sixième secrétaire général de l'ONU.
Boutros-Boutros-Ghali.
Bien sûr. Ah, je l'accorde à Arnaud qui a répondu.
Il a dit quoi?
Évidemment.
Boutros-Boutros-Ghali.
Bah, Glavé.
Qui est donc décédé.
On est tous à un point chacun ou quoi?
Il n'y a pas longtemps, ouais.
Oh putain.
Il n'y a pas longtemps.
Ça va, on joue aussi,
nous.
On n'a pas l'air comme ça, mais.
Non, mais attends,
on est prêt. À chaque fois, on est sur le fil du rasoir.
On y va ?
Allons-y.
Oui.
Attends, une dernière question sur cette thématique.
Laissez la question posée comme je vous que.
Oui.
Bah oui, oui, attendez. Non,
là, j'ai Ludo,
quand il gagne pas, comment il joue ?
Oh là là, tatillon et tout.
Je veux ce bouquin.
La vieille poupière.
On y va. Le catcheur américain Axel Rotten est retrouvé mort le 4 février dernier.
Merde.
La cause du décès, pas très nette, si on en croit les informations. On parle des suites d'une blessure née d'un combat de catch. Alors la question, c'est où exactement a-t-il été retrouvé ?
Dans Los Angeles. Pardon.
Dans ses chiottes.
Non, c'est un endroit.
Dans une rue, dans un bar.
A priori, on ne meurt pas.
Hein. Un pub.
À l'hôpital.
À l'hôpital.
Un pub, on n'est pas loin.
Dans un restaurant.
Oui.
Un fast food.
Un fast food.
Oui.
Un McDo.
Oui, dans un McDonald's.
Tu sens Marius ?
Oh la gueule, tu es trop content. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie.
Il a été effectivement retrouvé mort dans un McDo du Maryland aux États-Unis.
Bravo, je te comprends.
En fait, quand tu dis on ne meurt pas dans le McDo, en fait, souvent on y meurt après, quoi.
Non, c'est pour ça que c'était insolite.
Ouais. Tain, j'ai un point,
on sort de cette thématique mort en 2016.
Ah. Dommage,
j'ai compris. C'était marrant, c'est dommage, c'était rigolo.
Né en 2016, Philomène.
J'allais dire aussi pareil.
J'avais pensé à faire ça, mais j'ai dit non, c'est pas drôle.
Bah, si.
Ah, c'est private joke, mais ça peut être marrant.
C'est qui, Philomène?
Ah oui.
Hier soir, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Putain, j'ai pas regardé hier soir.
Les Oscars.
C'est César.
Ah ben non,
j'ai pas regardé.
Donc Giovanni.
Vas-y, dis. Comme tu étais.
Est-ce que vous connaissez le meilleur film étranger?
Iñárritu.
Mustang.
Birdman.
Mustang.
2015.
Ah merde. Mustang, non.
Oh, au César, tu veux dire le César?
Ouais.
Oui, je l'ai aussi.
C'est un indien? Un film indien?
Non.
Français.
Putain, meilleur film étranger.
Meilleur film étranger.
Un con.
Timbuktu.
Non.
Timbuktu.
Non, il était anglais. Dipan.
Non, il était français puisqu'il
est. Dipan, c'est français, c'est Odia.
Oui.
Ouais, enfin, à l'époque. On comprend.
Ouais, bref.
Si personne trouve le 2016.
Et pourtant, on le connaît bien.
Ah oui. Si vous ne l'avez pas vu, vous en avez au moins entendu parler.
On en a entendu parler.
Ah oui, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Et notamment son réalisateur.
C'est pas Lars von Trier, non. Lui, il a plus rien fait depuis un moment.
Un film africain ?
Non.
Un indice.
Posez des questions.
Un film de l'Est ?
Arabe ?
Un film de l'Est ?
Non.
Un film américain ?
Non.
C'est un film
portugais ?
Espagnol ?
Non.
Russe ?
Non.
Un film allemand ?
Belge ?
Non. J'ai pas entendu
de film allemand.
Une voix t'a couvert.
Japon ?
Un film allemand. Un film anglais,
japonais.
En fait, c'est un film anglais.
Non.
Chinois ?
Coréen ?
Ah oui, c'est pas Mommy de
Zemi
de
Lange ?
Oh merde !
Deux fois. Je veux ce bouquin.
C'est Mommy de Xavier Dolan, effectivement, et donc c'est canadien puisque
toujours pas.
Il est lui-même canadien.
Dis-moi que t'as plus de questions.
Ah ouais, Mommy. Ouais,
dis-moi que t'as encore deux questions.
La Mommy avec Brendan Fraser.
Non, il faut qu'on.
Entre parenthèses, un film exceptionnel.
Oui, que j'ai pas vu en fait.
On n'a pas eu l'occasion d'aller voir.
Un enfant rebelle qui.
C'est formidable.
Ouais.
Ou
un
enfant.
Je connais.
Tu l'as vu?
Oui, qui est en maison de redressement.
Moi, je l'ai vu.
En difficulté avec sa mère.
Je sais pas ce que t'en as pensé, Christophe.
C'est
oppressant.
C'est un peu difficile.
Un film pour Delphine, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ah non, surtout pas. Alors.
Question avec lui.
D'accord. Ta question. Pour répondre à ta question, il reste une.
25 questions.
23 questions.
Oh putain, je perds.
Je peux encore rivaliser avec lui.
Tout le monde peut encore gagner.
Vas-y, vous êtes des adversaires redoutables.
Pump it up.
Aujourd'hui.
Tout le monde peut gagner.
Aujourd'hui même sur France Soir.
Oula!
On apprend le retour en 2015 d'une maladie bien connue de
la syphilis!
La syphilis!
Ouais. Qui l'a dit en premier, c'est toi?
C'est Nico.
Ouais, eh ben, c'est le point pour Nico.
Nous, putain, j'aurais dû savoir, en plus, je l'ai!
500 cas déclarés en 2015. Tiens, d'après vous, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, qui est en tête des meilleures ventes de livres?
Marc Lévy!
Non.
Michel Bussy,
c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Non, sortez de cette veine là.
C'est
pas ça.
En France.
Sarkozy.
En France,
Juppé.
Oui. Non, c'est pas politique.
En France.
C'est pas politique.
Je pense que c'est Fillon, sinon.
J'allais dire, c'est politique.
T'as dit politique,
Ce n'est pas
politique. C'est pas le roman de David Cronenberg. Non.
Non.
Une BD ?
C'est pas une BD. Non.
C'est un essai ? C'est un essai ou c'est un roman ?
Non, c'est ni un roman ni un essai.
Jean-Luc Mélenchon.
Non. Pas politique.
C'est ni un essai. Écoute, on t'en parle.
Du coup, on pourrait rapprocher ça d'un essai.
C'est un truc un peu sociologique, en fait.
Welbeck ?
Pas tout à fait.
Il a rien sorti, Welbeck.
Bah si, parce qu'il avait.
C'est pas un truc pour le développement personnel ?
C'est plutôt ça, ouais.
Alors là, c'est. Attends.
Et on connaît l'auteur ?
Ah oui.
Oui.
C'est un personnage bien connu.
Oui.
C'est un personnage.
C'est pas le médecin Simès.
Ouais, Michel Simès. Bravo, Christophe.
Putain, 2-2-2, il y a pas de cadeau. Alors là, c'est pour les filles.
Il reste une dernière question.
Bon, bah là, nous, on joue plus, hein, du coup.
Bah si,
tu peux encore égaliser.
Tout le monde peut encore égaliser.
Mais par contre, je veux bien que tu caches un petit peu parce que non, fais pas non plus ça, me tente
oh,
pas.
Oh non, là j'ai écrit mal exprès pour que tu comprennes. pour info, le livre s'appelle Vivre mieux et plus longtemps.
Mais il paraît qu'il a fait un burn-out.
Il paraît que c'est pas mal.
Pop, on est dans le quiz.
Pardon.
Hein, Michel.
Alors là, c'est le point décisif.
On s'en branle là.
Ludo, il est concentré à fond.
Là, il écoute plus rien.
C'est question musicale.
Ça dépend. Si c'est du français, je suis mort.
Vas-y, fais péter.
Quel groupe a raté son retour sur scène hier au Zénith de Paris ?
Les Guns N' Roses !
Non,
c'était Massive Attack.
Ouais, bien vu, Nico.
Bien joué. Il y avait plein de coupures. Il y avait Bouli qui était et qui disait c'est vachement bien quand ça coupe pas.
C'est ça.
Évidemment, si t'envoies ton pote pour les réponses.
Ah, bah voilà, non, mais attends. Hey, on a du réseau, on en a pas, c'est tout.
Ouais,
merci, Bouli.
Personne.
Non, t'aurais pas gagné le bouquin, toi.
Bah non, on est
c'est la dernière question.
Oui. Bah ouais.
Ludo, t'as pas mal au cul, là. Putain, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit avec
Charles. T'as
l'impression d'avoir Christophe dans ton cul, quoi.
On était pas tous à deux points. T'as eu deux points, toi.
Mais non, je passe à trois.
J'étais à deux. Bah, si,
il met le point décisif.
Bah, avec Starlet, nous, on n'a pas voulu jouer.
Bien
joué.
On s'est dit, on va laisser les coqs sur
quand même une partie de bonhomme.
Merci.
Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le classement général?
Oh, mais il est chiant, ce classement, lui.
Alors, sur le classement général,
il sert à quoi, le classement général, finalement?
À savoir que tu bouges.
Peut-être qu'à la fin, Freddy va avoir un gros cadeau pour un vainqueur.
Eh oui.
Bah, moi, le classement général, je veux bien le dire, en plus, parce que je suis en tête. Avec 11 points. Ludo
merci,
derrière.
Freddy, pour le cadeau, c'est super sympa.
Ludo avec 9,5 points.
Il y avait
des demi, moi.
Des demi, je sais plus pourquoi.
Ouais.
Arnaud avec 9 points. Et puis après, ça décroche un peu. Christophe, 4e.
Combien de points ?
3 points et demi. Non, il y a Didouille avec 4 points qui a pas gagné. J'avais pas vu. Didouille et Christophe. Et ensuite, c'est 2 points pour Starlet, Marius et Freddy. Freddy qui a quand même 2 points.
Oui, mais quand vous trouvez pas, c'est points pour moi.
Ah, d'accord, je me souvenais plus.
À chaque fois, on se fait.
Bah, je suis très
Christophe
content.
A marqué 50% de ses points aujourd'hui, quasiment.
Ah ouais ? C'est beau, c'est beau.
Comme quoi, les statistiques, tu fais vraiment dire n'importe quoi.
Mes chiffres, on leur fait dire ce que
merci à tous.
Eh ben, merci à toi, Freddy.
Merci, Freddy.
Merci pour le cadeau. Hein.
Et tu sais ce qu'on va faire ?
Je sais pas.
On va, est-ce qu'on peut demander à Freddy de faire un quiz cuisine ?
Ah oui, moi
pourquoi
je peux bien
dire. Tu es en train de dire que cinéma, musique, culture générale, c'est plutôt Marius.
Mais je suis désolée, c'est une culture
c'est quoi,
comme une autre, la culture culinaire.
Moi, je suis assez d'accord avec ça, Christine de faire des quiz un petit peu thématiques pour que chacun ait sa chance.
Très bien, celle-là.
Mort en 2016.
C'est la quête de toi.
Mort en 2016.
Ouais, mais les gars,
alors, mort en 2016,
quoi, quand même.
Moi, je veux bien un quiz cuisine. Je vote aussi pour ça.
Par contre, pour mettre des questions en cuisine dans le quiz généraliste, pourquoi pas. Mais un thématique, bon...
Alors, voilà, un petit peu plus de questions de cuisine.
Il y a ceux qui savent perdre et les autres, quoi.
Oui, je crois que voilà, il y a le fair play et puis il y a le fair play, quoi.
Je propose donc, suite à ce quiz, qu'on enchaîne avec nos 60 secondes chrono.
Ah, oui,
et on va commencer par Freddy, puisque Freddy va devoir nous quitter. Donc
il faut qu'il prenne la photo.
On va faire la photo après. Mais là, en tout cas, on va lancer. Le jingle.
Est-ce que le morceau est prêt avant de commencer?
D'abord, déjà, on lance le jingle. 60 secondes chrono. Donc, c'est Freddy qui va commencer avec son coup de cœur, qui est donc, tu nous le dis,
une chanson, enfin, le nouvel album de Vandaver. C'est parti, le nouvel album de Vandaver qui s'appelle The Wild Mercury. Alors, j'aurais pu vous parler de mes coups de gueule du moment, de ma voisine qui ne pique ma place de stationnement.
Oh la connasse.
La préfecture qui m'envoie mon dossier de carte grise de ma meule, là, parce que j'ai joint une facture d'eau alors qu'il fallait une facture EDF.
Bravo.
Ou encore la bactérie qui n'a rien trouvé de mieux que de coller sur mon nerf facial. Mais non, je vous propose plutôt un peu de douceur avec le dernier album de Vandaver qui s'appelle The Wild Mercury. Un groupe que je suis depuis 2008, que je soutiens aussi à mon modeste niveau, je vous l'accorde. Le groupe de Washington avait joué l'an dernier sur le plateau de Rendez-vous en Terre Inconnue, quand même. Et le dernier album est magnifique, à l'image du morceau qu'on écoute, Buttonhouse on That For Now. Les voix de Mark et de Rose sur une musique plus travaillée qu'il n'y paraît. Des arrangements merveilleux, des morceaux d'une beauté rare, je vous en laisse profiter pour les quelques secondes qu'il nous reste. The offices we sing, and the hopefulness the brain, ringing out from the highest man.
Merci Freddy. Donc, mais de toute façon,
le
c'est
lien
sur, la...
sur l'Entrepode.
Ça sera sur la playlist de l'Entrepode, sur, sur Spotify. N'hésitez pas à vous y abonner. De toute façon, on ajoute à chaque fois toutes nos présentations musicales. Merci Freddy pour Vendaveur. Et donc là, on va passer la parole à Marius pour son coup de cœur. Es-tu prêt, Marius? Tu me dis, c'est parti.
C'est parti. Donc, petit quinquin. Dans le pays boulonnais où il ne se passe pas grand-chose, un jour, un hélicoptère survole le village pour aller sortir une vache morte d'un bunker. Et que découvre-t-on dans cette vache? Les restes d'une femme découpée en morceaux. Voilà comment commence cette fresque de 4 téléfilms diffusés sur Arte et réalisés par Bruno Dumont, qui s'est entouré que de comédiens amateurs. Et c'est ici le point fort du film, du petit quinquin, joué par Alan Delay et du commandant Van der Widem, campé par Bernard Prévost. Tout le monde est amateur et ça donne une réelle grandeur au film, tellement les scènes de vie presse semblent réelles en fait. Pour un peu, on se croirait dans Striptease, l'émission qui a jadis bercé notre adolescence. Moi, j'ai simplement adoré les scènes de l'enterrement où les acteurs jouant le prêtre rient réellement. Il y a pas d'autre mot quoi. Et la scène où l'enfant sortant de nulle part se prend pour Schtiderman, c'est énorme. Un film presque. Ça fait déjà 2 ans que c'est sorti, donc je conseille.
Jeudi prochain. On va passer à ton voisin, Ludo, s'il est prêt.
Oui,
es-tu prêt, monsieur Lulu?
Oui, les yeux toujours.
Toujours prêt. Maintenant, donc, c'est parti.
Eh bien, moi, je vais vous parler, en fait, d'un livre que ma chère et tendre, ma didouille, m'a offert il y a quelque temps de cela pour la Saint-Valentin. C'est beau, hein. Et il s'agit...
Est-ce qu'ils sont de Orient?
Bah oui, c'est terrible. Les classiques du... Les classiques, ne me pourrissez pas, mes 60 secondes chrono. Les classiques du cinéma bis, donc, qui est en fait une somme, en fait. Ça regroupe tout un tas de genres, de la science-fiction au giallo, au film érotique, kung-fu, porno, western peplum, et j'en passe et des meilleurs, qui couvre une période qui va de 1955 à 2013 et qui recouvre à peu près 500 films du genre, donc du genre qu'on aime bien, c'est-à-dire, enfin, que j'aime bien. C'est fait par Laurent Acquin.
Avec des phallus qui attaquent la Terre.
C'est exactement ça. Laurent Acquin avec la collaboration de Lucas Balbo. Donc c'est un livre, un beau livre, qui est donc édité à Nouveau Monde Édition. Et donc voilà, avec une fiche par film. Donc on a des choses formidables, comme par exemple Hercule à la conquête de l'Atlantide, Massiste contre Zorro, Change pas de main, Django, Amour primitif.
C'est fini.
Ça me plaît bien, moi.
Oui, tu l'as fini ou pas?
Non, je suis en train de le lire en ce moment.
Ah bah d'accord.
Je suis en plein dedans.
C'est un cadeau d'amour, il te le prêtera pas. Hein.
Non, je le prêterai bien sûr. Dès que j'ai terminé, tu
verras. Didouille, toi, tu avais un sujet.
Oui.
Visiblement. Et bah écoute, je suis très curieux de le connaître.
Alors, on ne quitte pas le cinéma. Je suis allée voir avec toute la petite famille Zootopie, je ne sais pas comment on le prononce. Bref, l'histoire d'une petite lapine qui rêve de devenir flic et qui, par force, courage et motivation, finit par le devenir et qui intègre Zootopie, donc une ville, Zootopia, une ville où tous les animaux vivent en harmonie, qu'ils soient prédateurs ou non. Et elle voudrait régler une enquête. Est-ce que ça va se passer comme ça? Vous allez voir. Bref, j'ai passé un moment absolument exceptionnel. Je me suis fendu la poire. Les clins d'œil pour plein de films ou des séries, il y en a des tonnes. Les personnages sont profondément attachants et surtout, il y a du fond, contrairement à ce que disait Dr. No. Et un petit clin d'œil à Emmanuel Carsen qui... double Duke Wellington.
Merci. Nous allons maintenant passer à notre camarade Christophe. C'est parti.
Donc je vous présente une jeune québécoise à la voix de Cristal, Émilie et Ogeden, alias Émilie Kahn et Ogeden, sa harpe. Ses chansons sont comme des émotions brutes, d'une pure beauté. Malheureusement, on ne peut pas trouver son CD actuellement, on ne peut l'en voir qu'en numérique sur Internet, parce que son CD ne sortira en France qu'en avril prochain, bien que l'album date d'octobre 2015. Je n'ai rien d'autre à dire parce que c'est super beau. Vas-y, monte le son.
Vous pouvez quand même le trouver sur Spotify.
Oui, en numérique.
Ça sera sur la playlist.
Non mais... Well, you can't save a bad man or hear what you want him to say.
merci Christophe, vous pourrez l'écouter sur la playlist de Spotify de l'Entrepode sans aucun problème. À mon tour, moi je voulais vous parler du manga Poison City. Donc l'histoire se passe au Japon en 2019, à l'approche des JO, le pays est bien décidé à représenter un modèle de vertu aux yeux du monde. On suit Mikio Ibino, un jeune mangaka qui se laisse aller à la création d'un manga d'horreur, ce qui va lui valoir de s'attirer les foudres du comité de censure qui va classer son manga et lui-même comme œuvre et auteur nocif à la société. Basé sur l'expérience personnelle de son auteur, Tetsuya Tsutsui, Poison City est un manga en deux tomes qui représente les difficultés des créateurs nippons face à la censure liée au puritanisme et à la fermeture des esprits que notre époque réactionnaire rencontre. On peut également faire le parallèle de jusque dans nos contrées, et notamment avec l'association Promouvoir qui part en croisade contre les films qu'elle juge immoraux et parvient à les faire réviser. Une police de la pensée et des phases de rééducation des esprits qui n'est pas sans rappeler Orange Mécanique dont parlait Didou tout à l'heure, mais également tous les films dénonçant les dérives totalitaires et liberticides sous couvert de bonnes intentions. Un titre et un propos parfois dans l'excès, c'est un peu le problème de Tsutsui, qui parfois justifie l'esprit de vengeance, mais qui est très bien dessiné, dont l'histoire courte est prenante et fait un peu réfléchir.
Bravo.
Starlet, à toi, avais-tu un coup de cœur ? Oui, tu avais un coup de cœur, es-tu prête ?
Oui.
C'est parti !
Donc ce mois c'est pas parti. Si, ce mois-ci c'est un coup de cœur donc putain la vache pour la fédération CPN. Donc c'est la fédération Connaître et Protéger la Nature. Mes enfants sont inscrits à une de ces un de ces clubs nature en fait qui s'appelle le Chouette Club au Petit Queville. Et c'est vraiment super bien. Ça coûte vraiment que dalle l'inscription à l'année. Ils font plein de choses. Ils font des sorties. Ils apprennent la nature, non seulement savoir l'identifier, mais aussi la préserver, la protéger. C'est ouvert aux enfants, mais c'est aussi ouvert aux adultes. Il y a des promenades qui sont organisées. C'est très très complet et je voulais saluer cette jolie initiative. Ça change un petit peu en fait des activités que peuvent avoir des fois les enfants de cet âge-là. Ça ouvre vers d'autres horizons. Voilà.
Je trouve que c'est une drôle d'idée d'inscrire ses enfants dans un club naturiste.
Arnaud, tiens, puisque tu l'as ouverte. Voilà, toi tu avais un sujet aussi à aborder. Arnaud, si tu es prêt, c'est à toi, c'est parti.
Voilà, un peu plus de 10 ans après son dernier album, Louise attaque à nouveau. Le nouvel album du groupe Anomaly est sorti il y a 15 jours. Même si on y retrouve les vieux accents du groupe sur pas mal de titres, il est clairement plus électro et s'inscrit plutôt dans la veine des albums solo de Gaëtan Roussel, ce qui pour ma part n'est pas pour me déplaire. Ça suscite en revanche quelques réactions de certains nostalgiques qui semblent refuser d'admettre que le groupe puisse évoluer musicalement. Quoi qu'il en soit, je doute pas que la scène saura convaincre les réticents, notamment lors des festivals d'été que le groupe va écumer. Et pour ma part, j'ai la chance de les voir dès le 3 mars au Cargo à Caen.
Ah oui ?
Oui.
Tu y vas avec Marius, non ?
Non, j'y vais avec ma chère et tendre.
Ah, parce que si tu es avec Marius, prévois, c'était plutôt en janvier, en fait. Du coup,
ah, ma Marius, il y était dès décembre. Hein.
Avec les yeux sous la lumière. Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode.
Dommage
parce qu'on commence à se faire chier.
Ma foi, assez rythmé, assez dynamique, ouais, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, on a passé un super moment.
Très bon moment. C'était encore un très bon moment.
Eh ben,
écoute, il va être très court, 30
pourquoi,
minutes.
Pourquoi c'est cet accent de Didouille ? Je ne sais pas.
Parce que j'ai vu que tu avais été à Toulouse et que tu avais bouffé le cassoulet.
Eh ouais, et putain.
J'ai mis un petit cassoulet.
C'était un saladier quand même.
Ça ressemble un peu à saladier.
T'avais un saut de cantine.
Donc, laissez-nous tous les commentaires que vous voulez sur le site de l'entrepôt. Entrepod.fr. Vous y retrouverez tous les liens vers ce qu'on a présenté lors de nos épisodes et parfois même d'autres articles ou compléments. N'hésitez pas à les piocher aussi dans nos épisodes précédents parce que si vous avez aimé celui-ci, peut-être qu'il y a des chances que vous aimiez d'autres choses sur le site.
Peut-être qu'il y a des chances que tu donnes.
L'entrepod, ils ont le sens du commerce quand même.
Par contre, si vous aimez pas celui-ci, laissez tomber.
Allez,
c'est pareil.
Ça sert à rien, revenez jamais.
Laissez tomber.
On est bien entendu sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter aussi, et Google Plus. Même Marius.
Marius, il est sur Facebook maintenant.
Pour nous, vous pouvez taper Entrepone n'importe où et puis vous nous trouverez sans problème. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux, jusqu'à comme Marius il y a pas très longtemps, ou qu'on peur de rater une publication de notre part, on a lancé une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner depuis notre site. La première va sortir normalement dans la semaine, dans le courant de la semaine prochaine. On est également présent sur SoundCloud, iTunes, Pod Radio comme d'habitude, les applications de podcast pour iOS, pour Android, pour Windows Phone, etc. N'hésitez pas à parler non plus de l'entrepôt autour de vous, ça nous apporte un sacré coup de main et puis du soutien. Et puis si vous voulez nous soutenir financièrement cette fois-ci, l'entrepôt est également présent
sur Tipeee. Mais bien sûr. Mais c'est pas vrai.
Sur Tipeee.
Mais qu'est-ce que c'est?
Tu veux dire
T-I-P-E-E.
Tipeee.
Tipeee. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je voulais remercier Tom qui est notre.
Vous voulez pas le laisser parler? Oh.
Et toi ta femme sinon ça va?
Donc après tu vas dire qu'on a explosé les oreilles des gens.
Il y a le directeur qui gueule.
Avec son marteau à la con.
Merci à Tom qui est notre dernier tipeur en date.
Voilà, mais qui est Tom?
Mais qui est Tom? Bah, d'ailleurs, je ne sais pas.
Bah, bonjour, Tom.
Quelqu'un je crois que Tom vient de Savoie.
Merci.
Bravo.
Merci, Tom, en tout cas.
En tout cas, merci, Tom. Merci, Tom.
Mais il faudrait bien qu'il nous dise qui es-tu, Tom.
Et puis, si jamais vous aimez soutenir des projets en général, pensez aux petits jeunes de Hoopstock, dont on a parlé dans notre épisode de l'Entrepôt se balade.
Et puis, aux petits jeunes de l'Entrepôt. Hein, voilà.
Aux petits jeunes, voilà.
Petits jeunes de l'Entrepôt, moins jeunes, rhumatisme, ils ont mal partout.
Ils font du bruit. en tout cas, on espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Nous, on a passé un super moment. Et puis, on se retrouve en avril maintenant, puisque le prochain épisode est prévu avec un nouvel artiste de la scène rouennaise.
En gros, on va pas vous le dire, quoi.
On ne vous révèle pas encore son nom, mais
ça commence par Bruce et ça finit par Springsteen.
Exactement. Ouais, attention. Donc, ça sera certainement un enregistrement pour le 1er avril. Et puis, on vous dit.
Allez.
Bisous.
Salut.
Ciao, tutti.
Quesadilla.